Docteur Ted Hildebrand, genre proverbial. Copyright 2024 Ted Hildebrand. Vidéo. Le dictionnaire de l'Ancien Testament, sagesse, poésie et écrit. Mon article IVP sur les genres proverbiaux pp 528 à 538. C'est le docteur Ted Hildebrand dans son enseignement sur le proverbe en tant que genre littéraire. Bienvenue à une autre session sur des sujets sélectionnés dans le livre des proverbes. Si vous souhaitez avoir une sorte d'aperçu des proverbes, vous pouvez aller sur biblicallearning.org et faire The Bible Project. 5 minutes suffisent pour tout le livre des proverbes. Très intéressant. Dans 5 minutes. Nous avons également Knut Heim, qui est un expert reconnu des proverbes, qui donne 20 conférences, passant en revue et citant une partie du contexte et un aperçu du livre des proverbes. Nous avons également Gus Conkel de l'université MC Master à Hamilton, en Ontario, qui donne 22 conférences donnant une sorte d'aperçu du livre des proverbes. Soit dit en passant, nous avons également tout le livre des proverbes rédigé en hébreu dans ce qu'on appelle le Hebrew Bible Speaker Proverbe. Et puis ce que j'ai fait maintenant, c'est que Daniel Trier a donné 4 conférences sur les proverbes dans la vie chrétienne. Ce que je fais ici dans cette courte série de longues conférences est en fait une série de sujets sélectionnés dans lesquels nous approfondissons des choses profondes dans le livre des proverbes, des questions de fond, et des choses comme ça, qui ne sont peut-être pas si intéressantes, mais qui jouent un rôle. Rôle lorsque vous essayez de comprendre ce qui se cache en dessous et la profondeur des proverbes que nous avons. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est qu'avant, on avait fait une conférence, une longue conférence, une conférence de 2 heures sur ce qu'un proverbe n'est pas. Aujourd'hui, ce que nous voulons examiner est, qu'est-ce qu'un proverbe? Et donc aujourd'hui, nous allons examiner le proverbe en tant que genre littéraire. Maintenant, l'importance du genre. Tout d'abord, commençons par cela. Un genre a un impact sur la façon dont la vérité est engagée. Un genre a un impact sur la façon dont la vérité est engagée. Donc, avec des genres différents, il faut le lire d'une manière différente. C'est ce qu'on appelle l'herméneutique, la façon dont vous interprétez la littérature, le texte de ce que vous lisez. Herméneutique. Ainsi, par exemple, si vous prenez un livre de recettes, vous le lisez différemment d'un roman de science-fiction, d'une science-fiction ou d'un meurtre policier. Meurtre mystère, quand vous y arrivez avec des attentes différentes. Vous le lisez d'une manière différente. Vous établissez des liens et vous l'interprétez différemment. Une biographie historique, est différente d'une science-fiction. Une encyclopédie se lit différemment d'un dictionnaire ou d'un thésaurus. Vous consultez un thésaurus pour certaines choses, un dictionnaire pour d'autres, et vous consultez une encyclopédie ou Wikipédia pour obtenir des informations d'un type différent. Et donc différents genres, différents types de littérature, affectent les attentes que vous avez et la façon dont vous interprétez ces choses. Ainsi, par exemple, vous dites, eh bien, je prends la Bible au pied de la lettre. Et donc, vous sautez dans quelque chose comme la fable de Jotham. Maintenant, c'est une fable dans la Bible. La Bible contient-elle des fables? Oui. La fable de Jotham dans les Juges chapitre 9. Et ici vous avez cet Abimélec essayant de devenir roi dans le livre des Juges, ironiquement, et il est le fils de Gédéon, et il tue tous ses frères sauf Jotham. Et Jotham monte sur la colline et il commence à se moquer de son frère en utilisant une fable. Et il dit que les arbres de la forêt sont sortis pour se trouver un roi. Et alors, ils sont allés au, vous savez, ils vont au cèdre, cèdre, seras-tu notre roi? Et puis ils vont à l'olivier, seras-tu notre roi? Et puis ils vont à la vigne, vigne, serais-tu notre roi? Mon garçon, quel roi ce serait? Et tout ça, le cèdre, les différentes choses à dire, non, je ne serai pas ton roi. Si je suis un olivier et que je deviens roi, qui va te donner de l'huile pour oindre ta tête? Alors finalement, ils viennent au buisson épineux et disent au buisson épineux, tu seras notre roi. Et le buisson épineux surgit et dit, je serai ton roi. En d'autres termes, le buisson épineux le moins probable et le plus ennuyeux qui vous arrache les jambes, c'est lui qui dit être roi. Et il se moque de son frère en disant, tu es le moins susceptible de tous les fils de Gédéon de devenir roi. Ainsi, il utilise une fable avec des arbres qui parlent. Et ils disent, eh bien, je prends la Bible au pied de la lettre. Les arbres parlent-ils? Les ours dorment-ils dans les bois? Enfilez-vous la cape de Superman? D'accord. Donc, en d'autres termes, ces choses-là, c'est une fable. Et si vous ne comprenez pas que c'est une fable, vous allez avoir des arbres qui parlent, mais c'est une fable. Ainsi, dans une fable, les arbres peuvent parler. Et sa fonction est le sarcasme, pour abattre son frère, qui vient de tuer tous ses frères et s'est fait roi illégitimement comme le buisson épineux devient roi. Les paraboles de Jésus, les 10 demoiselles d'honneur, apparaissent, 5 sont sages et 5 sont folles. Et ils arrivent, le maître est parti un petit moment. Et puis ces gars, les 5 disent aux 5 qui en ont, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de votre huile. Ils disent, non, tu dois aller le chercher. Quand ils vont chercher leur propre huile, tout d'un coup, le maître arrive et ils entrent et ferment la porte et les 5 se retrouvent dehors. Maintenant, question, est-ce vraiment arrivé? 10 demoiselles d'honneur comme ça? Non, non, c'est une histoire. Alors, vous dites, eh bien, est-ce vrai? Eh bien, oui, c'est vrai en tant que parabole, mais cela ne veut pas dire que cela s'est réellement produit. C'est une histoire qui a un sens. Vous devez être prêt quand le roi viendra, quand le marié, quand le mariage aura lieu. Et donc de toute façon, Matthieu 25 avec la parabole des 10 demoiselles d'honneur. C'est une histoire, c'est une parabole. Et si vous ne comprenez pas que c'est une parabole, vous passerez à côté de l'essentiel. Ainsi, le genre ou le type de littérature affecte la manière dont il engage la vérité et la façon dont ces vérités s'articulent avec le type de genre est différente. Ainsi, par exemple, si vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 et que vous avez cette créature qui apparaît avec une tête de lion, des pattes d'ours émergeant de la mer. La question est, à la fin des temps, allons-nous réellement voir une telle bête? Vous dites, oui, c'est Jurassic Park, revenez. Non non non. Vous manquez le point. C'est un livre apocalyptique, le livre de l'Apocalypse, et c'est une bête apocalyptique. Cela n'est pas censé être pris au pied de la lettre. Donc, vous devez comprendre que vous lisez un livre qui est apocalyptique et donc vous devez le comprendre comme une apocalypse, comme Dave Matheson, par exemple, qui a donné 30 conférences pour biblicallearning.org sur le livre de l'Apocalypse. Vous devez parcourir ces conférences et voir comment comprenez-vous le livre de l'Apocalypse en tant que littérature apocalyptique. Alors devrions-nous dire, eh bien, je prends la Bible au pied de la lettre et je fais ce qu'elle dit. Eh bien, dans Osée, Dieu dit à Osée de sortir et d'épouser une prostituée, Gomer. Êtes-vous censé sortir et épouser une prostituée? Sortez et faites de même. Non non non. C'était une chose ponctuelle qui était pour Osée, qui était un prophète, c'était un événement signe, un signe miracle, un événement signe de Dieu disant, sors et épouse Gomer, c'est une prostituée. Et puis en plus, elle va te tromper. Tout comme Israël m'a trompé en tant que Dieu, tu vas en faire l'expérience par toi-même, Osée, et tu devras alors aller l'aimer à nouveau. Tout comme j'ai de nouveau aimé Israël, même si Israël m'a trompé. Il s'agit donc de faire un parallèle entre les deux. Et encore une fois, si vous ne comprenez pas cela, vous dites, eh bien, Dieu lui a ordonné d'aller épouser une prostituée. Donc, je suppose que je devrais sortir et épouser une prostituée. Ce n'est pas ce qu'il dit. Donc, vous devez être très prudent dans la compréhension de la Bible et comprendre le genre. Maintenant, la question que nous nous posons ici est la suivante, qu'est-ce qu'un proverbe? Quel est le genre littéraire du proverbe? Et cela a été énormément discuté. Et lorsque vous essayez de citer et de définir un proverbe, toutes sortes de choses ont été écrites là-dessus, littéralement des milliers et des dizaines de milliers de pages sur ce qu'est un proverbe. Et les gens essaient d'aller au fond des choses, de le définir et de le verrouiller. Et le problème c'est que le proverbe est joli, c'est dur de s'enfermer. Et donc, vous devez en quelque sorte assouplir vos catégories. Si vous souffrez de TOC, ce n'est pas un problème que vous allez résoudre. C'est celui-ci que vous devez, vous savez, lui donner un peu de place. Comment va un célibataire? Voici donc quelques questions que l'on se pose dans un premier temps. Comment un seul proverbe, peut-il être modifié lorsqu'il est retiré de son contexte d'origine et placé dans un recueil? C'est décontextualisé. Il a reçu un décor original. Comment cela a-t-il changé lorsqu'il a été retiré de ce contexte et intégré dans une collection où il n'y a aucune sorte de contexte historique ou situationnel, mais c'est juste bam, 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 proverbe après proverbe? Comment un proverbe change-t-il de sens lorsqu'il est recontextualisé, retiré du recueil, remis dans une histoire et réintégré dans une nouvelle histoire diversifiée? Donc, le proverbe est retiré, généralement, les proverbes sont retirés lorsqu'il y a une histoire, une situation qui se produit, une personne fait une sorte de dicton proverbial, ce dicton est ensuite retiré par Salomon ou les hommes d'Ézéchia ou les sages et mis dans un recueil. Dans le recueil, il est décontextualisé de son histoire originale, mais ensuite, dans le recueil, nous pouvons retirer ce proverbe et le recontextualiser dans notre situation. Et comment faire? Comment fusionner ces deux-là dans une histoire diversifiée, différente de celle qui était originale, mais pourtant similaire d'un autre côté? Tous les proverbes bougent-ils et invoquent-ils le même niveau d'autorité? Comment fonctionnent les proverbes? Un proverbe est-il une promesse? C'est notre prochaine question. Un proverbe est-il une promesse? Des mains assidues font la richesse. Est-ce toujours vrai? Quel est le lien entre un proverbe et la vérité? Nous disons ce que nous croyons, et je crois que la Bible est vraie, mais vous devez l'interpréter correctement. Alors, comment interpréter un proverbe? Un proverbe n'est pas une promesse, n'est-ce pas? En quoi un proverbe est-il différent d'une promesse? Et comment un proverbe engage-t-il la vérité? Et cela évoque-t-il le même niveau d'autorité? Tous les proverbes invoquent-ils le même niveau d'autorité? D'où vient le proverbe? D'où est-ce que ça vient? Nous examinerons différents contextes, sites et lebens, de situations de la vie dont proviennent les proverbes. Quelles formes littéraires apparaissent dans le texte biblique des proverbes? Nous examinerons un peu ce que j'appelle ces choses de micro-genre. Nous avons le proverbe, mais sous le proverbe, il y a celle-ci, il y a les formules architecturales par lesquelles les proverbes sont construits. Ainsi, par exemple, nous avons mieux que des proverbes. Nous avons mieux qu'un certain ensemble de proverbes mieux que. Nous avons des avertissements. Nous avons des dictons numériques pour les trios et pour quatre si nous étions à Amos. Nous avons un acrostiche dans Proverbe 31. Et donc, nous examinerons ces types de micro-genres pour voir comment ces choses entrent ensuite dans le livre des proverbes. Et il y en a plusieurs qui sont plutôt intéressants à regarder. Dans les proverbes 10 à 29, il y a toutes ces phrases et ces phrases sont des sortes de bam, 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 proverbe après proverbe. Sont-ils simplement mis ensemble, pêle-mêle? Où pouvons-nous trouver des unités plus grandes qu'une simple phrase disant? Nous avons parlé dans une conférence précédente des paires de proverbes. Et donc, nous allons examiner la question du couplage juste pour revoir cela. Et puis les clusters, nous examinerons certaines choses que Knut Heim appelle des clusters ou je les appelle des chaînes, mais les clusters sont probablement meilleurs. Knut a raison là-dessus. Une image est bien plus puissante. Des mini-collections, puis des mini-collections, et enfin des collections entières. Nous examinerons donc les paires, les groupes, les mini-collections, puis les collections entières que l'on trouve dans le livre des proverbes. Et puis, comment cela vous affecte-t-il? Vous avez un proverbe original prononcé par un auteur original. Il y a donc une intention d'auteur de la part de l'auteur original. Comment cela s'accorde-t-il avec les éditeurs qui ont rassemblé les proverbes, par exemple dans les proverbes 25 à 29? Les hommes d'Ézéchia ont rassemblé ces proverbes dans la collection salomonienne. Salomon a prononcé 3000 proverbes. Nous n'avons que, je ne sais pas, 350, 375 proverbes. Alors, comment les ont-ils sélectionnés? Ainsi, l'éditeur a une sorte d'intention et de sens. Et l'auteur original aussi. Et donc, nous devons travailler avec deux niveaux, au moins deux niveaux, l'auteur original, puis l'éditeur de la collection et comment, ce qu'ils disent lorsqu'ils rassemblent leur collection. Et donc, nous avons plusieurs niveaux de signification des choses que nous devons examiner. Maintenant, descendons et posons-nous la question, et je veux juste en parler. C'est de Michael Fox. Michael Fox a écrit un Encore Bible Commentary en deux volumes, probablement l'un des meilleurs commentaires au monde sur les proverbes de Michael Fox de l'Université du Wisconsin à Madison, Wisconsin. C'est un commentaire formidable. Bruce Waltke, le docteur Bruce Waltke également un ensemble de deux volumes. Je crois que ça vient d'Erdman. C'est un meilleur commentaire phénoménal sur les proverbes, Fox, Waltke. Il y a un nouveau gars nommé Schipiper qui est un Allemand qui a également écrit un volume sur les proverbes 1 à 15, qui, je dirais, se classe parmi les meilleurs dans cette catégorie. Ces trois-là sont probablement mes meilleurs. Steinman, Kidner et plusieurs autres personnes ont écrit des commentaires sur le livre des proverbes, mais ces trois-là seraient probablement mes préférés. Fox, Waltke et Schipiper. Quoi qu'il en soit, dans le commentaire de Fox, il énumère des termes anglais et ces termes anglais nous semblent assez étrangers. Et donc, je veux juste examiner une sorte de définition de ces éléments sous peu. Un adage. Qu'est-ce qu'un adage? Un adage est un dicton traditionnel utilisé généralement accepté et transmis oralement. Réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir. c'est généralement oral et généralement accepté comme un dicton traditionnel. Réfléchir avant d'agir. C'est généralement accepté. C'est utilisé, c'est oral et c'est généralement accepté. C'est ce qu'on appelle un adage en matière d'interprétation orale. Un avertissement. Un avertissement est un avertissement contre un comportement inapproprié. Une remontrance est un avertissement contre un comportement inapproprié, généralement donné sous une forme impérative négative. D'accord. Ne fais pas ça. N'oubliez pas mes paroles ou quelque chose comme ça que dit le sage. Et souvent, quand il est dit de ne pas faire quelque chose, c'est une interdiction. Mais cela peut aussi être un mandat dans un sens positif, faire confiance au Seigneur de tout son cœur. Ce serait un avertissement positif ou j'appellerais cela un mandat. Donc, vous avez une interdiction et un mandat, tous deux accompagnés d'avertissements avec ce genre de niveau de commandement impératif. Un aphorisme. Qu'est-ce qu'un aphorisme ? Un aphorisme est une déclaration concise et laconique d'une perspicacité. Une déclaration concise et laconique d'une perspicacité s'appelle un aphorisme. Les chiens qui aboient ne mordent pas. Enfin, parfois en tout cas. Les chiens qui aboient ne mordent pas. Donc un chien qui aboie ne mord pas. Ce serait un aphorisme. Apothème est un court dicton plein d'esprit, une observation ou une maxime. Maintenant, une maxime est une sorte d'énoncé de vérité générale, une courte déclaration de vérité générale, vous donnant une sorte de principe fondamental dans une brève sorte de chose. La hâte fait des déchets. La hâte fait des déchets. Ce serait une courte phrase concise. Et au fait, au fur et à mesure que nous les parcourons, pouvez-vous voir le chevauchement entre ces éléments? Ce ne sont donc pas des catégories mutuellement exclusives. Nous essayons de les définir pour les séparer afin qu'ils nous donnent du sens. Mais beaucoup de ces éléments se chevauchent et interagissent les uns avec les autres. Un apothème est donc un dicton court et concis. Une épigramme est un bref poème qui expose un seul point, souvent avec une touche satirique. Ainsi, un bref poème faisant un seul point avec une tournure satirique est appelé une épigramme. Un précepte. Un précepte est une règle de comportement. Bien souvent, ces courtes règles de comportement sont formulées sous forme de conseil ou d'évaluation d'une situation. Ainsi, une règle de comportement est formulée sous forme de conseil. Et nous avons beaucoup de conseils dans le livre des Proverbes et avons formulé un précepte comme règle de comportement. Un proverbe est donc utilisé pour tous les types de dictons courts. Un proverbe est donc utilisé pour toutes sortes de dictons courts. Et tu dois faire attention à ne pas couper les cheveux. Si vous devez tout mettre dans une boîte propre et bien rangée, cela ne fonctionne pas avec les proverbes. Les proverbes même le peuvent, vous verrez des chevauchements avec des adages, et avec des aphorismes, avec diverses choses. Il existe une étude ou une discipline appelée parémiologie. Parémiologie vient du mot grec paroiomia. Permettez-moi de mettre le bon accent. Paroiomi. Et c'est essentiellement le mot grec pour proverbe. La parémiologie est une étude des proverbes. La parémiologie est une étude des proverbes. Et comme j'ai étudié le livre des proverbes pendant la majeure partie de ma vie, cette parémiologie est un domaine, c'est un domaine laïque. Ces gars ne sont pas chrétiens. Et probablement le leader mondial, pas probablement, c'est lui le leader mondial, Wolfgang Mieder de l'université du Vermont qui parle allemand. Je pense qu'il enseigne l'allemand, le russe et je ne sais pas combien d'autres langues il connaît, mais il a rassemblé des proverbes du monde entier. Et ils étudient ces proverbes venus d'Afrique, de Chine, des proverbes chinois, dit Confucius, dans divers contextes internationaux. Même Benjamin Franklin et ses livres de proverbes. Donc, il y a des proverbes du monde entier, des proverbes grecs, et Wolfgang Mieder et certains de ses autres gars, Dindas et d'autres, rassemblent ces proverbes et les étudient comme un genre littéraire. Et ils ont fait un travail immense là-dessus, des dizaines de milliers de pages. Et cela me brise toujours le cœur quand je vois ces biblistes qui font toute cette exégèse sur les proverbes, mais qui ne le font pas, s'engager sérieusement avec ces parémiologistes. Et je pense qu'il y a une énorme fécondité entre l'interaction entre les parémiologistes et notre livre des proverbes. Et que cette parémiologie a été largement ignorée jusqu'à récemment. Et je pense que Catherine Dell de l'université de Cambridge, certains de ses étudiants et autres en voient la valeur et la porte et cela avance. Mais nous avons mis du temps à y arriver. La plupart de nos exégètes de citations traditionnelles ont tout simplement ignoré la parémiologie et à leur propre disparition, me semble-t-il, ou pas à leur disparition, mais cela aurait pu être tellement plus riche s'ils avaient engagé les personnes qui étudient cette parémiologie. Or, universalité historique et culturelle du genre proverbe, universalité historique et culturelle du genre proverbe. Les proverbes remontent loin. Ils remontent à Sumer en 2500 avant J.C. C'était peu de temps après que l'écriture ait commencé à se développer. L'une des premières choses que nous avons, ce sont les proverbes. Ainsi, l'écriture commence et les enregistrements proverbiaux, Ulster, un gars nommé Ulster, ont deux volumes sur les proverbes sumériens. Sumer, l'histoire commence à Sumer, comme l'a dit quelqu'un. Et donc, Sumer remonte loin. Je veux dire, nous parlons de 3000-3200 avant J.C. Et puis ce qui se passe, c'est que vous avez les deux volumes des proverbes sumériens d'Alcée. Cela remonte donc à très loin, mais cela revient aussi au temps moderne. Et donc, nous avons sur Internet ces pop UPS qui se produisent, qui sont proverbiaux et qui ont prospéré même au XXIe siècle. Celui qui est apparu récemment, le proverbe est un nouveau proverbe qui n'avait jamais été dit auparavant, mais c'est une chose nouvelle. C'est de réveillez-vous, faites faillite. Ou une autre façon de le dire, plus proverbiale, probablement, allez-vous réveiller, faites faillite. Et donc, c'est le proverbe moderne qui vient de surgir. Je sais que les gens vont détester ça parce que nous sommes censés montrer du respect aux réveillés, mais c'est juste, allez-vous réveiller, faites faillite. C'est donc un proverbe qui revient encore aujourd'hui sur Internet. Donc, ce que je dis, c'est que depuis l'époque sumérienne jusqu'au temps moderne, les proverbes sont utilisés et nous illustrerons cela au fur et à mesure de notre progression. Les proverbes sont également intégrés dans d'autres types de littérature parce que le proverbe, la hâte fait du gaspillage, est une courte déclaration. Ces proverbes peuvent être intégrés dans d'autres types de littérature, par exemple les épopées. Et ainsi, dans les épopées, les poèmes, les chansons, les pièces de théâtre, les romans, la publicité moderne et les recueils proverbiaux internationaux et régionaux. Je viens de recevoir ce livre sur le livre des proverbes africains et leur signification. Et donc, ce type vient d'Afrique et il va dans divers pays, au Ghana et dans divers endroits, et il récupère leurs proverbes et il récupère 400 de ces proverbes majeurs venant d'Afrique. Dans un certain sens, il est très intéressant d'examiner les proverbes à travers une perspective africaine, car les proverbes sont encore utilisés de manière très diversifiée, beaucoup plus diversifiée qu'en Amérique. Quoi qu'il en soit, il a ici environ 400 proverbes. Par exemple, permettez-moi de lire que certains d'entre eux sont intéressants. Quand deux éléphants se battent, l'herbe en souffre. Quand deux éléphants se battent, l'herbe en souffre. Et vous pouvez voir, et vous savez, c'est un proverbe. Peu importe la durée de la nuit, l'aube se lèvera. Peu importe la durée de la nuit, l'aube se lèvera. Encore une fois, c'est clairement un proverbe. Un autre dicton qu'ils ont est, si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence, si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence, essayez de passer une nuit avec un moustique. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence, essayez de passer une nuit avec un petit moustique. Et n'importe lequel d'entre vous est allé camper et vous avez un moustique dans votre tente, vous savez, c'est un problème et cela vous dérange toute la nuit. Voilà donc quelques proverbes qui viennent d'Afrique, qui sont des problèmes actuels, des proverbes qui viennent maintenant d'Afrique. Cela montre l'universalité historique et culturelle du proverbe en tant que genre littéraire. Il existe un besoin humain de classer, de généraliser et de codifier l'expérience. Nous vivons tous la vie. Et il existe un besoin humain de classer les types de comportements, de généraliser quelque chose d'une situation à plusieurs, de codifier cette expérience, en simplifiant la nature complexe de la réalité en une chose courte. La hâte fait des déchets. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et donc, nous prenons une situation complexe et la réduisons à une sorte d'énoncé simple, généralisé, classifiant et codifié. Et dans un sens, la réalité est très complexe. Daniel Treillet a écrit un article brillant sur les êtres humains qui apprennent à gérer leur propre finitude. Nous ne sommes pas infinis. Et il existe des millions de situations. Et donc, parce qu'il existe des millions de situations, nous essayons de les classer pour les comprendre afin de pouvoir les maîtriser. Et donc, les proverbes sont un moyen d'y parvenir, tout comme les mots. Nous avons un mot qui peut signifier beaucoup de choses. Et cela s'explique en partie par le fait que si nous avions un mot pour tout dans le monde, je regarde ici une étagère pleine de livres. Mais si je devais énumérer chaque livre, ce serait trop. Maintenant, nous utilisons des livres et cela classe, je ne sais pas, 50, 100 livres que je regarde en ce moment. Et on les appelle tous des livres. Et cela nous permet donc de mettre tous ces différents livres et différents titres et différents auteurs, différentes périodes, différents genres et de les rassembler tous. Et nous appellerons cela un livre. Et donc cela nous permet de généraliser. Un proverbe est comme ça aussi. Nous avons été dans des millions de situations et une personne va alors isoler et consolider en quelque sorte le sens de cette situation et s'en emparer dans un proverbe qui est généralement mémorable et court. Et bam, vous avez compris la situation. Alors cette situation, ce proverbe s'applique à des centaines de situations. Cela vient donc d'une situation particulière. C'est résumé. Et puis une fois que vous l'avez résumé, vous pouvez en quelque sorte le recontextualiser dans 100, 1000 situations différentes. Ainsi, les proverbes sont également filtrés à travers les idéaux et les valeurs culturelles. La culture affecte le proverbe. Lorsqu'il est question d'éléphants qui se battent et endommagent l'herbe, la plupart d'entre nous n'utiliseraient probablement pas ce proverbe. Nous utiliserions ce proverbe, mais nous ne l'aurions probablement pas inventé parce que beaucoup d'entre vous, moi y compris, n'ont pas vu les éléphants dansant et ce qu'ils font à l'herbe. Mais si vous êtes en Afrique, où vous avez des éléphants, alors vous voyez, ouah, combattre les éléphants détruit l'herbe. Cependant, une fois qu'ils auront prononcé ce proverbe, je pourrai alors emmener cette situation en Amérique et l'appliquer aux politiciens ou aux grands qui se battent, aux élites qui se battent et à ce qui arrive aux gens qui sont sous leurs pieds. Elle peut donc s'appliquer dans un contexte américain, même si elle est originaire d'Afrique. Ainsi, un proverbe est une compression d'une histoire. Souvent, vous avez une histoire et cette histoire est ensuite compressée en un proverbe. Il y a donc un lien entre une histoire. Il y a souvent une histoire derrière le proverbe. Un peu comme si vous aviez déjà chanté des hymnes à l'église, il y avait une histoire derrière cela, ça me va bien. Et vous entendez parler de cet homme, de toute façon, n'entrons pas dans le contexte de cela, mais c'est juste que l'hymne a un contexte. Et puis, quand on comprend ce contexte, tout d'un coup, l'hymne prend un sens différent. Les proverbes sont très similaires. Il y a une histoire qui se cache derrière le proverbe, puis l'histoire s'effondre. L'histoire se transforme en proverbe. Et donc c'est intéressant de cette façon. Parmi les anciens proverbes du Proche-Orient, nous avons la collection sumérienne, les instructions de Shurupak, 2600 à 1800 avant J.C. En fait, c'était probablement avant Abraham. J'ai cependant le premier proverbe dynastique qui apparaît 800 ans plus tard. Et donc Alstey souligne que ces proverbes étaient des proverbes sumériens, mais que ces proverbes apparaissent ensuite dans d'autres recueils 800 ans plus tard, bien après la disparition de Sumer. Et donc, les proverbes ont tendance à rester longtemps. Le proverbe se transmet de génération en génération. Et donc les proverbes anciens, voici un exemple de ce que j'appelle la polygenèse. En d'autres termes, un proverbe qui ressort et, au fur et à mesure qu'il traverse l'histoire, prend différentes formes. Et cela est cité à maintes reprises. Et donc, voici un exemple de quelque chose comme cette polygenèse. Autrement dit, de la création dans de nombreuses situations. La corde à trois brins ne peut pas être coupée. La corde à trois brins ne peut pas être coupée dans une épopée sumérienne de Gilgamesh, l'épopée sumérienne de Gilgamesh. Cela se retrouve dans la version akkadienne. Ainsi, la version sumérienne antérieure, la version akkadienne ou babylonienne ou Etana, la légende d'Etana, possède également cette corde à trois brins. Mais alors c'est très intéressant. Ce sont comme les temps anciens, sumériens, babyloniens, akkadiens. Et puis vous regardez le livre de l'Ecclésiaste et vous lisez ceci, Ecclésiaste 4, 12, une corde composée de trois cordes est difficile à briser. Une corde composée de trois cordes est difficile à briser. Et donc, vous obtenez cette chose et vous pouvez voir comment elle se transforme et descend. Et tout d'un coup, on retrouve dans le livre de l'Ecclésiaste le même genre de choses. Donc, nous allons voir cela. Un autre exemple de ce genre d'universalité est, une chienne dans sa hâte a donné naissance à un aveugle. La chienne, dans sa hâte, a donné naissance à un aveugle. C'est un proverbe akkadien de 1750 avant J.C. Dans une lettre qui trouvera plus tard un écho dans Aristophane, en grec, en italien et même en arabe à Bagdad. On parle désormais arabe à Bagdad, où le chien est remplacé par le chat. Le chien est remplacé par un chat. Alors, dans le proverbe arabe le plus récent, que vous pouvez voir, je vais le lire et vous verrez le parallèle. C'est écrit, le chat dans sa hâte, des chatons aveugles. Le chat dans sa hâte, l'original était la chienne ou le chien, la chienne d'Ansat a donné naissance à l'aveugle. Aujourd'hui, dans la région de Bagdad, en arabe moderne, on dit que le chat d'Ansat donne des chatons aveugles. Même si c'est intéressant dans le nord de l'Irak, il conserve toujours le « chien ». Ainsi, dans le sud de l'Irak, dans la région de Bagdad, ils utilisent des chatons et c'est en quelque sorte passé au chat. Et dans le nord, ce sont toujours les chiens. Je préfère le nord. Désolé, je plaisante. Quand un bateau digne de confiance navigue, Hutu cherche pour lui un lieu d'accostage digne de confiance. Quand un bateau digne de confiance navigue, Hutu, le dieu de Sumer, cherche pour lui un lieu d'accostage digne de confiance. Notez que le dieu est mentionné dans les proverbes sumériens. Hutu cherche pour lui un lieu d'atterrissage digne de confiance ou un quai. Le dieu est mentionné dans les proverbes. Dieu ou Yahvé, le Seigneur est également mentionné dans de nombreux proverbes bibliques. Je pense que 15% d'entre eux sont des paroles de Yahweh. Et plusieurs personnes ont dit, eh bien, cela montre une évolution ultérieure. Les proverbes des phrases précédentes étaient tous laïques, sans aucune mention de Dieu. Mais plus tard, au fur et à mesure qu'ils développaient leur théorie évolutionniste de la théologie, et qu'ils devenaient plus théologiques, ils ont alors inséré ces paroles de Yahvé où on mentionnait Dieu dans ces paroles. Donc, à l'origine, ils étaient laïcs. Et puis il y a eu cette évolution vers ces paroles de Yahweh. Et c'était une évolution ultérieure de la pensée théologique. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons des exemples ici. C'est Sumer, c'est-à-dire des milliers d'années avant même que Salomon ne vive. Et nous avons un dicton selon lequel Hutu cherche ici un lieu d'atterrissage sur pour ce bateau qui a été construit. Donc, cette théorie ne fonctionne pas. Et il est alors très utile de revenir aux anciennes collections de proverbes du Proche-Orient, comme la collection de proverbes sumériens. Sumer, nous avons de vieux groupes proverbiaux babyloniens où le vieux babylonien donne et il y a des groupes et ils sont copiés à partir de l'unilingue. En d'autres termes, le sumérien possède une liste de proverbes. Sumer, le type original de la culture ancienne, a une liste de ses proverbes dans l'ordre. Et ce qui est intéressant alors, c'est que cette liste de proverbes est copiée plus tard dans les proverbes acadiens ou babyloniens. Et ils ont aussi ces listes bilingues où le proverbe sumérien est répertorié ici et le proverbe acadien est répertorié ici. Et donc, il y a un parallèle entre le sumérien et l'acadien, vous faites des allers-retours, ce qui est alors très utile pour les traducteurs, traduisant entre le sumérien et l'acadien. Donc, tout ce que nous essayons de dire, c'est que les proverbes ont fait leur chemin depuis Sumer jusqu'à ces mêmes proverbes, et même le recueil dans le même ordre se retrouve en acadien ou en babylonien des centaines d'années plus tard. Et donc vous obtenez ce genre de choses. Aïkar est un sage assyrien datant d'environ 700 avant J.C. Aïkar et ses proverbes ultérieurs enregistrés sont traduits en arabe, lequel arabe, ces choses remontent à la période après Jésus-Christ et des choses comme ça. Il traduit cela. Donc, tout ce que nous essayons de dire, c'est que les proverbes ont été transmis internationalement, au-delà des frontières internationales entre Sumer et Babylone, et qu'ils ont également été traduits dans le temps. Donc Aïkar, un sage de 700 avant J.C., vous avez l'arabe qu'il a mis en arabe au moins en 700 après J.C. Donc, vous avez compris, cela se transmet à l'échelle internationale, mais aussi à travers le temps, sur de longues périodes, ces proverbes continuent. Permettez-moi de prendre un exemple moderne, Robert Frost. Le proverbe de Robert Frost, « De bonnes clôtures font de bons voisins. »« De bonnes clôtures font de bons voisins. » Voyez là la répétition du bien, ce dicton court, « De bonnes clôtures font de bons voisins. » Au fait, pouvez-vous appliquer cela dans de nombreuses situations? Il ne s'agit pas seulement de clôtures. Maintenant, on parle de limites, et les limites apparaissent partout. Ainsi, « De bonnes clôtures font de bons voisins. » Il s'avère que cela vient d'Ezekiel Rogers, le fondateur de Rowley, dans le Massachusetts, où je vis. Ces conférences ont lieu en ce moment même, chez moi au 79 Daniels Road, Rowley, Massachusetts. Donc, c'est Ezekiel Rogers qui a fondé Rowley dans les années 1640, 300 ans avant Frost. Frost cite ce proverbe, « Les bonnes clôtures font les bons voisins » d'Ezekiel Rogers, 1640, il y a 300 ans d'écart là-bas, mais il le cite et c'était réalisé à partir d'Ezekiel Rogers. C'est un proverbe de Rowley, Massachusetts. Chaussée qui a dit, celui qui vient le premier au mille, vient au moulin, le premier broie. Et ils disent que c'est Chaussée, c'est en anglais. Et ce proverbe donné par Chaussée devient alors un anglais plus moderne, premier arrivé, premier servi. Le premier qui vient au moulin est le premier qui broie, comme le dit le proverbe, premier arrivé, premier servi. Le premier arrivé, premier servi, peut alors s'appliquer à des milliers de situations. Premier arrivé, premier servi. Soit dit en passant, Coca-Cola a repris ce proverbe et l'a déformé. Et c'est là une partie du caractère ludique des proverbes. Coca-Cola a pris le proverbe, premier arrivé, premier servi, et l'a transformé en, soif venue, soif servie, pour Coca-Cola. Boire un coca. D'abord la soif vient, la soif sert, un proverbe tordu qui en découle. Donc, c'est en quelque sorte une sorte de proverbe qui migre à l'échelle internationale. Il s'étale sur 3, 4 sens, 5 sens, 8 sens, voire 1000 ans dans le temps. Et au fil du temps, ils se retrouvent confrontés à de nouvelles situations. Bien souvent, ils sont tordus, humoristiques ou sarcastiques, ou de diverses manières, ils sont tordus pour mieux s'adapter au langage et à la situation actuelle. Et donc, c'est la flexibilité des proverbes sur cette chose. Universalité historique et culturelle du genre proverbial. Permettez-moi de revenir en Égypte. Il existe une longue instruction proverbiale traditionnelle qui vient d'Égypte. Et c'est dans ce format parent-enfant. Dans les proverbes, il est dit, écoute, mon fils, les instructions de ton père ou écoute les instructions de ta mère. Ne méprise pas l'enseignement de ta mère, ce genre de choses. En Égypte, ils ont le même format pédagogique. Parent parlant à son enfant. L'ancien royaume remonte à 2600 avant J.C. à 2100 avant J.C. C'était avant Abraham. De 2600 avant J.C. à 2100 avant J.C., nous avons le prince Arjodef et Kagemeni. Dans l'Empire du Milieu, soit entre 2000 et 1600 avant J.C., nous avons Ptahotep. Instruction intéressante, l'instruction de Ptahotep. Dans le Nouveau Royaume, cela se situe entre 1500 et 1080 avenues. Nous avons Amenemhop, qui se reflète en fait dans le livre des Proverbes au chapitre 22 et suivant. Amenemhop, une instruction égyptienne, certaines de ces choses sont reprises, évoquées ou citées dans le livre des Proverbes lui-même. Notre livre des Proverbes. Ani est une autre personne de ce nouveau royaume. À l'époque ptolémaïque, c'est maintenant après Alexandre, Ptolémée s'est emparé de l'Égypte et nous avons le Hankchéchonk, vers 300 avant J.C. Donc, vous avez de 2600 avant J.C. à 300 avant J.C. jusqu'à l'époque ptolémaïque, de l'ancien royaume jusqu'à l'époque ptolémaïque. Voilà quoi, 2300 ans. Cette femme Myriam Lichtem dans sa littérature égyptienne ancienne, elle a 3 volumes sur cette littérature égyptienne ancienne. Elle dispose alors d'une liste et du texte de toutes ces instructions anciennes depuis l'ancien royaume jusqu'à l'époque ptolémaïque, 300 avant J.C. Donc c'est très intéressant. L'Égypte a une tradition en bandoulière et il est très intéressant que ce genre de choses, la sagesse de l'Égypte, soit même mentionnée dans la Bible. Ainsi, les adages des proverbes classiques grecs et romains, ont été rassemblés par un homme nommé Erasmus en 1524. Alors, Erasmus, certaines personnes, moi-même, je l'appelle Erasmus le coquin. Il a écrit beaucoup de textes grecs et des choses comme ça en 1524. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce sont juste ces adages des proverbes grecs et romains. Il les a collectés, Erasmus l'a fait en 1524. C'est après J.C. Il existe également des recueils de proverbes chinois. Confucius dit ceci, Confucius dit cela. Vous obtenez une fortune et lorsque vous terminez dans votre restaurant chinois, il l'ouvre et vous l'ouvrez et vous avez une fortune là-dedans. Beaucoup d'entre eux sont proverbiaux. Les proverbes chinois sont donc mondialement connus. Les collections européennes et russes sont également volumineuses. Wolfgang Mider dans son Dictionary of American Proverbs, le Dictionary of American Proverbs, que Wolfgang Mider étudie l'allemand, le russe et toutes ces autres langues, mais il s'est ensuite penché sur les proverbes américains. Il a un dictionnaire des proverbes américains de 710 pages. Ainsi, en Amérique, nous l'avons fait, et bien souvent, ils utilisent désormais la publicité. Mais quoi qu'il en soit, il a un livre de 700, plus de 700 pages sur les proverbes américains et il a également d'autres livres dans les collections qu'il a rassemblés dans divers pays. Le recueil proverbial oral est toujours vivant dans la culture africaine. Donc, j'ai plusieurs livres sur les proverbes africains et c'est toujours le proverbial, autrement dit, la génération des proverbes en Afrique est toujours vivante. Et donc, c'est très intéressant. Je pense que nous pourrions apprendre beaucoup des Africains sur la façon dont ils utilisent les proverbes. Parce que c'est très vivant aujourd'hui sur le continent africain. Le point de tout cela a été que la forme proverbiale est ancienne, universelle et culturellement fluide. Ça va de culture en culture et ça se traverse, c'est universel. cela va d'une culture à l'autre et dans le temps. En fait, ils durent des milliers d'années, ces proverbes le racontent. Donc, c'est vraiment ce genre de genre. Travaillons maintenant à une définition d'un proverbe. Vers la définition d'un proverbe. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci, des centaines et des centaines de pages ont été écrites sur la façon de définir un proverbe et personne n'a été capable de s'en sortir. Et cette définitive que tout le monde dit, ça y est, vous l'avez. Vous devez donc prévoir une certaine flexibilité ici. Et donc, je vais faire ce genre de manière ludique. Je ne suis pas une personne très carrée. Mes bords sont toujours très, comment dire, fluides et les bords me sont toujours flous, les bords des choses. Alors que d'autres personnes, certains avec qui je vis, tout est boum, boum, c'est des cartons et c'est très simple comme ça. Cervantes dit, et ceci est un petit proverbe. Qu'est-ce qu'un proverbe ? Un proverbe est une phrase courte tirée d'une longue expérience. Voyez-vous ici, Cervantes lui-même essaie de faire un proverbe sur les proverbes. C'est plutôt intéressant. C'est un homme littéraire. Et bien sûr, des phrases courtes tirées d'une longue expérience. Et ainsi, vous obtenez cette chose courte, longue, des phrases courtes tirées d'une longue expérience. Et vous dites, et vous cliquez et vous dites, ouais, c'est vrai. Mais est-ce seulement un proverbe ? Non, mais il l'a en quelque sorte compris. Des phrases courtes tirées d'une longue expérience. Vous avez toutes ces expériences, et boum, vous dites une courte phrase comme nous en avons déjà parlé. Ibn Ezra dit qu'il existe trois caractéristiques des proverbes. D'accord. Les trois caractéristiques des proverbes sont peu de mots, le bon sens et une belle image. Peu de mots, du bon sens et une belle image. Et vous dites, est-ce que tous les proverbes sont tous métaphoriques ? Ont-ils tous une image ? La réponse n'est pas vraiment. Ainsi, l'image est plus ou moins, elle peut être là ou non. Mais quelques mots qui fonctionnent. Le bon sens, la sagesse, ça marche aussi. Ainsi, Wolfgang Mede, comme nous l'avons dit, le plus grand parénologiste mondial, le définit ainsi. C'est une citation de lui dans son livre sur le proverbe. Remarquez comment ils ont tous insisté sur cette courte phrase, une courte phrase généralement connue du peuple. Donc, il le met dans un contexte folklorique. Nous allons voir que c'est bien plus complexe que cela dans les proverbes bibliques. Une phrase courte est généralement connue. C'est généralement connu. Lorsque vous citez un proverbe, la hâte fait du gaspillage, les gens cliquent. Celui-là, ils le connaissent. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Boum. Celui-là, ils le connaissent. Un point attend en vaut neuf. Boum. Ils connaissent, des coûts différents pour différentes personnes. Boum. Ils le savent. C'est cette phrase généralement connue du peuple qui contient la sagesse, la vérité, la morale et les vues traditionnelles sous une forme métaphorique, fixe ou mémorisable. Alors, remarquez comment il parle de forme métaphorique, oui, mais aussi de forme fixe et mémorisable. Donc, il autorise une certaine flexibilité, vous savez, en disant que cela doit avoir une forme métaphorique, qui est transmise de génération en génération. Mede remarque ainsi que les proverbes se transmettent de génération en génération. Ils sont généralement connus. La hâte fait des déchets. Et cela se transmet également parent-enfant. Le père dit à son fils, une mère dans Lémuel, proverbe 31. La mère du roi Lémuel dit, oh, mon fils, fils de mon ventre. Et puis elle continue en disant à son fils, tu sais, tu es le roi, mec. Ne buvez pas trop. D'accord. Tu blesses les gens quand tu fais ça. Tu es le roi. Ne bois pas. Et elle continue ainsi, mais c'est l'enseignement de la mère de Lémuel dans Proverbe 31 verset 1 et suivant. Donc, Wolfgang Mede dit ceci, permettez-moi de le relire. C'est une définition assez complète du proverbe, de ce qu'est un proverbe. Une phrase courte et généralement connue du peuple, qui contient la sagesse, la vérité, la morale et les vues traditionnelles sous une forme métaphorique, fixe et mémorisable, transmise de génération en génération. Il existe un besoin humain de classer, de généraliser et de codifier l'expérience, filtrée à travers les idéaux et les valeurs culturelles de chacun. Et ainsi, chaque culture interprète et comprend le proverbe de différentes manières, dansant des éléphants ou combattant des éléphants ou dans l'herbe. Et donc cela vient de cette culture, les idéaux et les valeurs culturelles aident à expliquer l'universalité de la forme proverbiale d'un point de vue cognitif. C'est très intéressant. Les scientifiques cognitifs ont étudié l'utilisation des proverbes pour déclencher des phénomènes dans le cerveau des gens. Ces paroles sont enregistrées dans des formats mémorables et compressés, qui projettent leurs idéaux concis dans le domaine du virtuel. Je vais revenir sur le sujet du virtuel. Je pense que c'est une chose très importante à comprendre. Prêt à fonctionner dans une multitude de nouvelles situations, déclare Onik. Prêt à fonctionner dans une foule de nouvelles situations. Et donc Onik aborde les choses d'une manière scientifique cognitive, en disant, comment les proverbes fonctionnent-ils dans le cerveau? Eh bien, le cerveau veut classer, généraliser et codifier l'expérience. Et le cerveau travaille également avec la culture, ses idéaux et ses valeurs. Et il recherche l'universalité du proverbe et tout ça. Et il le compresse ensuite dans ce format mémorable et ses idéaux concis dans le domaine du virtuel. Le virtuel est que lorsque le proverbe entre dans la collection, il attend là, comme un pop-corn prêt à éclater. Le proverbe est comme un noyau de boisson gazeuse, un pop-corn, et on lui applique une certaine chaleur herméneutique. Boum, ça ressort dans une autre histoire. Ainsi, comme c'est tiré d'une histoire et réduit à un grain de maïs, puis que la chaleur est appliquée à la chaleur herméneutique, et boum, cela apparaît dans une autre histoire et des centaines d'histoires, des milliers d'histoires, le proverbe peut s'appliquer à la hâte fait des déchets. Elle peut être appliquée dans une centaine de situations différentes. Un proverbe peut être figuratif lorsqu'il utilise des métaphores ou des comparaisons, ou simplement littéral. Si c'est clairement littéral, ils peuvent appeler cela une maxime. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. J'ai un gendre et ma femme et mon gendre ont un truc ludique. Parfois, ce n'est pas très ludique, mais toi et moi souhaitons en fait, d'accord, il y a une longue histoire là-dedans. Je ne veux pas entrer en conflit. Alors, mon gendre, parlant de ma fille, dit à ma femme, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. En d'autres termes, ma femme vient de faire quelque chose qui a déclenché chez mon gendre, il voit la même chose chez ma fille. Ainsi, dit-il, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. En d'autres termes, comme votre femme et votre mère, telle est la fille. D'accord, ce serait une autre façon de le dire. Ainsi, la mère, ainsi la fille, telle fille. D'accord, c'est peut-être la façon de le dire. Le même genre de chose, telle mère, telle fille. Et il le dit généralement avec une petite pique. Et voilà, je ne recommande pas cela. Mais, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. C'est une expression métaphorique. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. C'est une métaphore, une pomme et un arbre. Eh bien, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une pomme et d'un arbre? Non, ça parle vraiment d'autre chose. Pour rendre cela littéral, ou plutôt une maxime, telle mère, telle fille. C'est désormais clair, telle mère, telle fille. Au fait, pouvez-vous modifier cela? Ouais, on pourrait dire, tel père, tel fils. D'accord. Et donc, cette pomme retirée de l'arbre. Et donc, vous voyez comment se joue le jeu entre une expression métaphorique d'un proverbe et une expression non métaphorique d'un proverbe. La pomme ne tombe pas loin d'un arbre, telle mère, telle fille, tel père, tel fils, comme ceci, comme cela. D'accord, nous travaillons donc avec la définition d'un proverbe. Habituellement, il est poétiquement amélioré grâce à des techniques telles que la rime, l'allitération, les points de suspension, vous savez, vous supprimez un mot, et le lecteur doit alors fournir ce mot sous forme de points de suspension, de paronomase, de répétition, de parallélisme, ce qui aide à le rendre mémorable et citable. Les proverbes sont mémorables et citables. Et ils prennent en quelque sorte l'histoire et boum, en un genre de choses courtes et mémorisables. La structure architecturale du genre est comme, ils ont ces structures architecturales, un proverbe est reconnu pour ses structures architecturales. Ainsi, nous disons, comme X, comme Y, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, tel employeur, tel employé, tel président, tel peuple. Ne dis pas celui-là. D'accord. Mais de toute façon, c'est comme X, comme il notait la répétition. Renforcement sonore, assonance, consonance, allitération, rime par onomase. Prenez, par exemple, un oiseau dans la main en vaut deux dans la brousse. Un oiseau dans la main en vaut deux dans l'arbre. Ça ne marche pas, un oiseau dans la main en vaut deux dans l'arbre. Ouais, mais tu dis que les oiseaux vivent dans l'arbre.
Non, mais ça manque un peu.
Dans quelle mesure est-ce mieux?
Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Tout d'un coup, vous vous souvenez que, un oiseau dans la main vaut deux dans la brousse.
D'accord.
Un point à temps en vaut neuf.
Heure, 9 heures.
Vous avez une petite rime là.
Ainsi, un point à temps en sauve 9.
Maintenant, dans quelle situation un point à temps peut-il en sauver 9?
Nous parlons, disons, de quelqu'un qui coud ses vêtements et qui dit qu'un point dans le temps évite, vous savez, d'avoir à en faire 9 plus tard.
Un point à temps en vaut 9.
C'est de la couture.
Mais pourtant on se rend compte que ce n'est qu'un point dans le temps qui sauve 9 applications dans une centaine de situations, des milliers de situations.
Et ainsi, mais remarquez qu'un point à temps en sauve 9.
Vous avez cette rime qui le rend mémorable. Les scientifiques cognitifs ont remarqué le lien entre l'interprétation du proverbe et le bon fonctionnement de l'hémisphère droit du cerveau. Donc, en d'autres termes, ils ont en fait des tests qui sont des tests de proverbes pour voir dans quelle mesure les gens peuvent les interpréter. Ensuite, ils évaluent si le cerveau d'une personne fonctionne correctement, en particulier l'hémisphère droit, qui était gauche.
D'accord.
L'hémisphère droit du cerveau.
D'accord.
Et donc, il y a tellement de sciences cognitives qui ont exploré une partie du potentiel des proverbes, de sorte qu'en d'autres termes, nos cerveaux sont programmés pour se déclencher sur les proverbes. Et donc c'est une sorte de chose cool sur le plan cognitif derrière tout ça. Maintenant, le potentiel virtuel des proverbes collectés.
Potentiel virtuel des proverbes collectés.
Un proverbe est créé lorsqu'il existe une situation à partir de laquelle un modèle est observé, généralisé, distillé, de manière inductive, déductive ou analogique, en une seule déclaration poétiquement conçue. L'histoire ou le scénario ou la situation se résume alors à ce proverbe, et le proverbe le capture. Le dicton fabriqué est ensuite cité, détaché de sa situation d'origine et placé dans une collection. Dans le recueil alors le proverbe est virtuel. Aujourd'hui, certaines personnes qui ont étudié les proverbes disent qu'un proverbe mis dans un recueil est mort.
Je ne pense pas.
Les proverbes placés dans une collection sont virtuels. Il a été retiré de son cadre d'origine et a réduit cette histoire à ce noyau du proverbe, la hâte fait du gaspillage, et il a été mis dans une collection. Et à partir de cette collection, cela peut être diffusé dans 1000 situations différentes. Moderne et ancienne, elle peut voyager dans le temps, elle peut traverser les frontières internationales. Il a du potentiel, et ce potentiel est prêt à éclater.
C'est virtuel.
C'est un peu comme la réalité virtuelle. Et il n'attend que d'être replongé dans une situation ou une histoire des temps modernes. Certains concluent que les proverbes sortis de leur situation originelle et détachés dans des collections stériles sont morts. Cependant, une fois détachés et décontextualisés dans un recueil, les proverbes rassemblés deviennent beaucoup plus flexibles et acquièrent des possibilités multisémantiques et une adaptabilité polysituationnelle. En d'autres termes, vous pouvez prendre « la hâte fait du gaspillage » et vous pouvez le faire dans une centaine de situations différentes où la hâte fait du gaspillage. Donc, une personne n'étudie pas pour un examen, et elle pense simplement « je vais juste passer par là et éliminer l'examen ». La hâte fait des déchets. Une personne travaille sur quelque chose, et elle est censée le faire, la hâte produit du gaspillage. Laissez-moi vous dire que j'ai travaillé sur la fabrication du pain, comment faire du pain et des choses comme ça.
La hâte fait des déchets.
Donc, vous ne le laissez pas monter. Faire lever du pain prend du temps. Et donc, il faut le laisser lever toute la nuit. Mais si vous l'attrapez au bout d'une heure ou deux, vous obtenez une petite augmentation, mais la hâte fait du gaspillage. Vous venez de gâcher les bonnes possibilités de pain.
Ainsi, la hâte engendre le gaspillage.
Ainsi, la hâte génère du gaspillage dans tellement de situations différentes que vous pouvez l'appliquer. Et donc, c'est virtuel. Et il a de la polysituation, une fois qu'il est dans la collection, il peut surgir dans de nombreuses situations alors, une adaptabilité polysituationnelle. Son potentiel est virtuel dans la collection et réalisé lorsqu'il est rattaché, recontextualisé, ou en informatique, on raconte un objet, c'est-à-dire, vous définissez cet objet et l'objet a ses propriétés. Et puis vous instanciez cet objet dans un programme réel. Donc, vous définissez l'objet et vous lui donnez des propriétés, etc., etc. Et puis vous instanciez cela dans une partie particulière de votre programme. Une fois que vous l'avez défini, c'est un peu ce qu'est un proverbe. Vous avez le proverbe, la hâte fait du gaspillage. Et maintenant vous l'instanciez.
En fait, vous le mettez dans la vie et vous dites que la hâte fait du gaspillage. Et donc, vous essayez d'aller très vite parce que vous vouliez arriver à un endroit et des choses comme ça. Et tu as commencé à faire des excès de vitesse. Et puis tout d'un coup, vous voyez ces feux rouges et le policier vous arrête, la hâte fait du gaspillage. D'accord. Donc, vous finissez par manquer ce que vous essayez d'atteindre rapidement parce que maintenant vous avez un billet et maintenant vous devez payer votre assurance pour le reste de votre vie. D'accord. Ainsi, la hâte fait du gaspillage. D'accord. Où est-ce que, le goût fait la taille? Waouh. Nous ne voulons pas aborder celui-là, mais vous voyez à quel point j'ai déformé le proverbe. La hâte fait du gaspillage, pour, le goût fait la taille. D'accord. Ne fais pas ça. D'accord. Mais je suis juste, je suis désolé. Cela m'est venu à l'esprit. Des trucs bizarres avec ces proverbes. Ce que je dis, c'est que les proverbes peuvent être ludiques. Et c'était ma tentative là-bas. Les proverbes sont des unités détachables puis conçues pour convertir le réattachement conversationnel dans de nouvelles situations. L'importance de l'usage est visible dans des groupes de proverbes similaires. D'accord. Donc, c'est maintenant que nous en sommes, nous passons au sujet de l'usage proverbial. Comment les proverbes sont-ils alors repris dans le recueil? Comment sont-ils concrètement utilisés? Ils sont nés et l'histoire a été résumée en phrases courtes. Maintenant, c'est pris, mis dans une collection. Comment est-il réellement utilisé? Comment utiliser un proverbe? L'importance est visible dans les groupes et les chaînes de proverbes similaires dans les chapitres 26, 7 et 9 des proverbes. Le livre des proverbes explique comment utiliser un proverbe correctement et incorrectement. D'accord. La façon dont les proverbes sont utilisés est expliquée dans Proverbes chapitre 26, 6-7 et 9. Comme la jambe d'un boiteux qui pend mollement est un proverbe dans la bouche d'un insensé. Maintenant, les proverbes sont censés être des paroles sages qui sont transmises et tout ça. Et maintenant, ce qu'il dit, c'est que, comme la jambe d'un boiteux qui pend mollement, c'est un proverbe dans la bouche d'un insensé. Et ainsi, vous obtenez cette image. Rappelez-vous comment ces gens parlaient tous de l'image métaphorique de ce boiteux avec une jambe sortant de la bouche d'un imbécile qui utilisait un proverbe. Un imbécile peut-il citer un proverbe? Oui. Oui. Et ceci dit que la jambe d'un boiteux qui pend mollement est un proverbe dans la bouche d'un insensé. En d'autres termes, le caractère de la personne qui l'utilise peut déterminer le résultat de ce proverbe. Un imbécile peut citer un proverbe qui ne le rend pas sage. D'accord. Et donc, il y a alors un danger de simplement dire, eh bien, le proverbe signifie, et puis celui qui le cite. Non, non. Le caractère de la personne, une personne insensée est comme prendre un proverbe, puis est comme une jambe boiteuse qui pend mollement. D'accord. Et puis, au verset 9 du chapitre 26, verset 9, il est dit, comme un buisson épineux brandi dans la main d'un ivrogne. Alors, tu es saoul? Il a ce buisson épineux avec toutes les aiguilles qui dépassent et il brandit, il le balance et des trucs comme ça. D'accord. Ainsi, comme un buisson épineux brandi dans la main d'un ivrogne est un proverbe dans la bouche des insensés. Alors, les imbéciles peuvent-ils utiliser des proverbes? Oui, ils peuvent. Mais même si le proverbe donne l'impression d'avoir une certaine sorte de sagesse, lorsqu'il est utilisé, ce proverbe peut en réalité faire de gros dégâts parce qu'il est utilisé par un imbécile. Ainsi, les proverbes peuvent être utilisés de toutes sortes de manières différentes. Et un imbécile peut utiliser un proverbe. C'est comme une jambe boiteuse ou un ivre qui frappe les gens avec des aiguilles et des épines. D'accord. Ainsi, les proverbes parlent en fait de l'utilisation des proverbes. Il faut peser l'impact d'un propos sur l'auditeur. Et cela peut être très diversifié. Par exemple, Proverbe 10.1b, un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Dit à un autre parent. Ainsi, deux parents parlent et la mère cite ensuite ceci à l'autre parent en disant, un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Et l'autre parent le sait parce qu'il a aussi des enfants. Et ils connaissent le pouvoir des enfants d'avoir un impact et de blesser leurs parents. Dans notre culture, ce sont tous les parents qui font du mal à leurs enfants. Et c'est formidable dans notre culture. Et c'est quelque chose dont il faut vraiment parler, des abus, etc., etc. D'accord. Cependant, le parent a-t-il la capacité, l'enfant a-t-il la capacité de blesser le parent?
Oui.
Et ainsi, parent à parent peut en parler. Et cela signifie une chose là-bas. Ainsi, l'un des parents peut réconforter l'autre parent en lui disant « un fils insensé est un chagrin pour sa mère ». Et un parent réconforte l'autre parent avec ça. Et si un frère ou une sœur cite cela? Ainsi, vous avez un frère ou une sœur qui parle à un autre enfant et qui dit « vous savez, un fils stupide est un chagrin pour sa mère ». Ce frère ou sa sœur avertit peut-être l'autre frère de ne pas faire ce que vous avez l'intention de faire parce que vous allez blesser maman. Et donc, quand c'est de parent à parent, c'est du réconfort. Lorsqu'il s'agit d'un frère ou d'une sœur, cela peut être un avertissement pour ce frère. Cela pourrait être parlé d'une mère à un enfant. Un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Une mère pourrait parler à l'enfant en lui disant, en lui donnant des conseils, et en lui disant, ne fais pas ça. Tu vas blesser ta mère. D'accord. Et ainsi, un père, par exemple, peut dire cela à un enfant pour que l'enfant réalise que je ne veux pas blesser maman. Et donc je ne ferai pas ça. Donc, tout ce que je dis, c'est là, nous avons trois situations, de parent à parent, de réconfort, de frère ou sœur à frère, un avertissement, de parent à enfant, d'orientation. Ainsi, le même proverbe fonctionne de trois manières différentes, selon la manière dont il est utilisé. C'est donc un peu polysémantique. En d'autres termes, vous ne pouvez pas simplement dire que ce proverbe signifie ceci. Cela signifie cela dans tellement de situations différentes, et cela signifie des choses différentes. Et il essaie de faire des actes de langage. Son action dans la parole fait trois choses différentes. Dans ces trois exemples différents que je vous ai donnés, il peut être utilisé à des fins de consolation, d'encouragement, de réprimande, d'avertissement, et même d'humour, selon qui est celui qui parlait à qui il est adressé lorsqu'il est recontextualisé. Alors maintenant, définition d'un proverbe d'un point de vue structurel, et beaucoup de proverbes que nous obtenons, d'Inde utilise ceci, sujet et commentaire. Et d'Inde prend le sujet et le commentaire de manière binaire, en mettant un plus et un moins, ou un moins et un plus, ou un moins. Pour que vous ayez un sujet dont on parle et un commentaire qui est fait sur le sujet. Et cela peut être positif-positif, négatif-négatif, positif-négatif, négatif-positif et ses variations. Et donc, cela les aide en fait à analyser ce commentaire sur le sujet, cela nous aide à analyser les proverbes et à le décomposer. Quel est le sujet? Quel est le commentaire? Qu'est-ce qui est positif? Est-ce négatif? Et c'est en quelque sorte le cas. Ainsi, par exemple, Proverbe 14, 15. Les proverbes disent, une personne simple est un sujet, une personne simple, un sujet positif ou négatif, une personne simple, négative. Une personne simple, commente, croit n'importe quoi, négative. Une personne simple, un sujet, un commentaire, croit n'importe quoi. Ces deux éléments sont négatifs. Une personne simple croit n'importe quoi. C'est donc sujet, négatif, commentaire, négatif. TC, sujet, commentaire, négatif, négatif. Et ce n'est donc qu'un début pour analyser les proverbes. Et vous pouvez ensuite aborder des choses de type structure profonde. Ainsi, une personne simple croit n'importe quoi. Il est facile d'imaginer recontextualiser le même proverbe dans un large éventail de contextes d'actes de langage, en l'utilisant pour l'exposer. Une personne simple croit n'importe quoi pour dénoncer quelqu'un. Pour humilier une personne simple croit n'importe quoi. Vous pourriez humilier une personne. Vous pourriez les réprimander. Vous pourriez vous moquer d'eux. Vous pourriez les avertir. Vous pourriez les guider. Vous pouvez les encourager. Vous pourriez évaluer et dire qu'une personne stupide, une personne simple croit n'importe quoi. Si je jouais avec mon frère, par exemple, qui est un grand bouffon, et mon frère est Terry, je pourrais dire quelque chose comme ça par humour et des choses pour susciter la réflexion et instruire les autres. Or, si un proverbe est métaphorique, il faut en déduire son sens commun non métaphorique. En d'autres termes, si le proverbe est métaphorique dans de nombreuses images, alors vous devez en déduire que son sens n'est pas métaphorique. Et permettez-moi juste de montrer ceci d'une virtualité polysituationnelle d'un proverbe qui a besoin d'être recontextualisé. Ne pleure pas à cause du lait renversé. Ne pleure pas à cause du lait renversé. Qu'est-ce que cela signifie? Ne pleure pas à cause du lait renversé. Eh bien, si vous avez déjà eu de jeunes enfants, vous savez, ne pleurez pas à cause du lait renversé. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce vraiment parler de lait? Tout d'abord, vous dites, eh bien, je prends la Bible au pied de la lettre. Ça parle de lait et de pleurs. Est-ce vraiment parler de renverser du lait? Non, il ne s'agit pas vraiment de ça.
D'accord. C'est juste la métaphore. Comment comprendre ce que cela signifie réellement?
Eh bien, cela peut signifier quelque chose comme ça. Il ne faut pas perdre de temps à s'inquiéter de choses qui ne peuvent être ni annulées ni modifiées. Cela ne sert à rien de pleurer à cause du lait renversé. Ne pleurez pas à cause du lait renversé. Ne vous inquiétez pas de choses que vous ne pouvez pas faire, qui se sont déjà produites et qui ne peuvent pas être annulées ou modifiées. Ne pleure pas à cause du lait renversé. Il existe maintenant un contexte dans lequel cela pourrait être considéré comme encourageant. Donc, un entraîneur de football, ils viennent de perdre le match. Et il dit à son équipe de ne pas pleurer à cause du lait renversé. Il essaie d'encourager son équipe parce qu'elle vient de perdre le match. Ils se sentent déprimés. Il entre, ne pleure pas à cause du lait renversé. Ne perdez pas votre temps. Je pense au match que nous venons de perdre. Nous avons un autre match la semaine prochaine. Nous devons nous lever pour ça. Ne pleurez pas à cause du lait renversé. Continuez. Levez-vous et partez. Alors, le coach encourage, reprend ce proverbe, ne pleure pas sur le lait renversé pour encourager ses joueurs. Un ami peut narguer un autre ami qui vient de perdre une partie de Scrabble. Alors, il joue au Scrabble. Et dans notre famille, ces jeux que nous avons, beaucoup de jeux de risque, Monopoly. Nous avons notre propre ensemble de règles pour le monopole qui ressemble presque à une offre boursière. Et le Scrabble, ce sont des contextes de guerre en famille.
D'accord.
Et donc, une personne dans cette famille, notre famille qui joue, cela devient vraiment compétitif. Nous avons nos familles et un certain nombre d'enfants adultes, c'est un peu ironique parce que je ne suis pas très compétitif moi-même, mais mes enfants sont vraiment compétitifs dans ces jeux. Et donc, d'accord. Alors, voilà. Ma femme qui vient de gagner le jeu de Scrabble et elle se retourne et dit, ne pleure pas à cause du lait renversé. Et elle se moque des autres en disant, j'ai gagné. Ne pleurez pas à cause du lait renversé. Et il y a là une raillerie. En fait, ma femme est trop gentille. Elle ne le ferait pas, mais certains de mes enfants le feraient. Quoi qu'il en soit, la raillerie, vous pouvez l'utiliser, ne pleurez pas à cause du lait renversé pour narguer un ami qui vient de perdre.
D'accord.
Ou une réprimande, un patron envers un employé inactif et indolent. En d'autres termes, l'employé est juste assis là et se sent déprimé et j'ai tout gâché et j'ai commis une erreur et tout cela est terrible. Et le patron dit, mec, tu dois te lever et y aller. Alors, dit le patron à l'employé, ne pleure pas à cause du lait renversé. En d'autres termes, renouvelez vos fiançailles, mec. Ne restez pas là, indolent et inactif. Poursuivez-le.
D'accord.
Tu as fait une erreur.
Oui.
Reconnaissez-le et continuez.
D'accord.
Justification. Ne pleurez pas à cause du lait renversé. Une personne est blessée, mais sans remède et dit, ne pleure pas à cause du lait renversé. Et alors, la personne dit, eh bien, vous venez de perdre. Que fais-tu? Et le gars se lève et reprend la route. Et le gars dit, ne pleure pas à cause du lait renversé. Je m'en occupe. Et il l'utilise pour se justifier. Ainsi, le même proverbe peut être utilisé pour encourager, narguer, réprimander et se justifier, justifier son comportement. Et vous voyez donc que le proverbe dit que lorsqu'il réapparaît dans une histoire, il peut s'appliquer à des centaines d'histoires différentes et de centaines de manières différentes. L'un est l'encouragement. Un reproche. L'une est la justification. On est encouragé. Et c'était juste un peu qui me venait à l'esprit. Il peut être utilisé de bien plus de façons que cela. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que la culture a un impact sur la manière dont un proverbe est compris et sur la manière dont un proverbe est généré, la genèse du proverbe. Laissez-moi simplement vous montrer comment la culture influence la façon dont un proverbe est compris. C'est très intéressant. En Écosse, nous avons un proverbe qui dit « une pierre qui roule ne ramasse pas de mousse ». En Écosse, quand ils disent qu'une pierre qui roule ne ramasse pas de mousse, cela signifie que cela indique la nécessité de suivre le rythme et de rester moderne, de suivre ce qui se passe aujourd'hui, de peur que de la mousse indésirable ne se développe sur vous et ne révèle votre manque de viralité mentale. En d'autres termes, vous êtes mentalement vif. En d'autres termes, tu as vérifié, mec. Vous ne savez pas comment utiliser votre téléphone portable. Vous ne savez pas utiliser votre ordinateur portable. Vous ne savez pas comment utiliser l'IA ou les nouvelles techniques de base de données. Et donc, vous devez suivre le programme. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et la mousse est mauvaise. Alors, vous voulez être le Rolling Stone. Vous voulez être la pierre qui roule parce que si vous restez assis et n'apprenez rien de nouveau, de la mousse va pousser sur vous. Vous ne voulez pas que cette mousse soit partout sur vous. Donc, vous voulez être une pierre qui roule en Écosse. Un Rolling Stone, c'est bien. La mousse est mauvaise. La seule chose est que si vous changez de culture et descendez en Angleterre, une pierre qui roule ne ramasse pas de mousse signifie que si les choses changent continuellement, aucune mousse que vous voulez faire pousser n'aura suffisamment de stabilité pour prospérer. Ok, tu vois la différence là? Une pierre qui roule roule et la mousse est bonne. Et par conséquent, vous voulez que la mousse pousse. Mais si vous changez toujours les choses, vous n'aurez pas la capacité de produire cette mousse qui montre la stabilité et la belle mousse qui pousse sur le côté d'un bâtiment là-bas. Il montre son âge et sa force. Et donc, en Écosse, la mousse est mauvaise. Donc, vous voulez continuer à rouler. En Angleterre, vous voulez continuer à rouler. Si vous continuez à obtenir un résultat négatif, si vous continuez à obtenir un résultat négatif, aucune mousse positive ne poussera. Deux significations totalement différentes vont dans ces directions. L'un est en Écosse et l'autre en Angleterre. C'est le même proverbe, exactement les mêmes mots. Faites votre exégèse des mots. Oh, que signifie la mousse? Que signifie pierre roulante? Et vous faites une exégèse dans une étude de mots dans la concordance de Strong ou autre, dans Logo ou Accordance. Et tu recherches Rolling Stone, tu fais tes études de mots. Question, vous l'avez raté de peu parce que c'est culturel. C'est culturel et la culture détermine si le Rolling Stone est bon ou mauvais, selon que vous voulez ou non de la mousse. Et donc, quand vous ne voulez pas de mousse, vous feriez mieux de continuer à rouler. Lorsque vous voulez de la mousse, vous feriez mieux d'arrêter de rouler et de laisser à la mousse le temps de s'épanouir. Ainsi, la culture a un impact sur la façon dont vous interprétez un proverbe. Et donc, lorsque vous faites de l'exégèse sur ce genre de choses, vous ne pouvez pas simplement faire des études de mots. Il faut regarder la culture parce que la culture change totalement le sens du proverbe. La culture a un impact sur la façon dont les proverbes sont interprétés. Souvent, ils sont transmis à l'international. Aïkar a écrit Assyria, écrit en Assyrie, vers 700 avant J.C. Aïkar est cité dans le livre juif de Tobie. Donc voilà, vous avez Aïkar. Nous avons dit que cela entrerait en arabe plus tard, mais dans le livre juif de Tobie, il est cité. Et ainsi nous obtenons la même chose dans Proverbes chapitre 22 avec l'Amenemope sorti d'Égypte. Et cela est repris ou évoqué dans le livre des Proverbes, chapitre 22. À propos, 1 roi 4, 30 dans 1 roi, la section historique parlant de Salomon construisant le temple, prenant la relève de David et de son enfant Roboam, et des problèmes qu'il aurait à cause des énormes problèmes là-bas. Mais dans 1 roi 4, 30, il est dit que la sagesse de Salomon surpassait toute la sagesse des peuples de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Remarquez maintenant comment il compare la sagesse de Salomon avec la sagesse de ceux de l'Est. Cela ne veut pas dire, oh non, les gens de l'Est sont tous des idolâtres et leur sagesse est totalement détruite. Non, ce n'est pas ce que l'on dit. Cela veut dire que les peuples de l'Est ont de la sagesse. Salomon surpasse la sagesse de l'Orient, qui serait la Mésopotamie, la sagesse mésopotamienne, mais il la surpasse aussi. Il mentionne explicitement la sagesse de l'Égypte, la sagesse de l'Égypte. Souvenez-vous d'ailleurs de Salomon, qui fut l'une de ses premières grandes épouses et qu'il épousa une princesse égyptienne, fille de Pharaon. Salomon l'épouse. Pensez-vous qu'elle a été formée à la sagesse égyptienne? Et puis il vient parler à Salomon. Les proverbes sont donc internationaux. Même 1 roi 4, 30 présente la situation internationale entre la Mésopotamie et l'Égypte et montre à quel point la sagesse de Salomon est plus grande que celle-là. Et il a prononcé 3000 proverbes donnant de la sagesse. Nous n'en avons que 300 et quelque chose comme ça. Même la Bible le reconnaît. Maintenant, cet usage, usage proverbial, je voulais appeler instanciation où un proverbe est extrait d'un recueil et remis en situation. Nous appelons en fait cela une instanciation où elle est recontextualisée dans un nouveau contexte. L'autorité passe d'un auteur unique à la communauté plus large. Ainsi, la hâte fait du gaspillage, ou, un fils sage apporte de la joie à un père, est fait par un individu. Il est ensuite transmis à la communauté et celle-ci le répète au fil des générations et entre les cultures. Et il a une adhérence durable qui lui permet d'y adhérer. Le même proverbe est utilisé dans deux contextes différents. Ceci est intéressant dans le premier chapitre 10 de Samuel, versets 11 et suivants. Saul, roi Saul, rappelez-vous que le roi Saul va devenir roi. Il va être un roi dans 1 Samuel 10, 11. Et il est dit que l'esprit se précipite sur le roi Saul et lui demande avec incrédulité, puis Saul commence à agir comme un prophète comme s'il était fou. Il commence à prophétiser. Et ainsi, il va devenir roi. Et ainsi, l'esprit vient sur le roi. Il est oint d'huile et devient roi. Et à mesure qu'il devient roi, il accomplit ses choses prophétiques. Et il est dit, Saul est-il parmi les prophètes? Les gens sont incrédules. Et ils disent, ouah, c'est Saul et il est fait roi, mais il agit comme un prophète. Saul fait-il partie des prophètes? Et les gens sont incrédules. On dit que c'est Saul parmi les prophètes. C'est très intéressant quand on regarde 1 Samuel 19:24. Dans Samuel 19, 24, Saul poursuit David de manière meurtrière jusqu'à Rama. Et puis lui aussi s'est déshabillé. Et lui aussi prophétisa devant Samuel et resta nu jour et nuit, toute la nuit. Et ainsi, il est dit, Saul est-il parmi les prophètes? L'esprit vient sur Saul et il est allongé nu sur le sol et fondamentalement, l'esprit empêche Saul de poursuivre meurtrièrement David, le roi David, d'essayer de tuer David parce que David sera le prochain roi ou autre. Et alors, l'esprit l'arrête et il descend comme ça. Et ils disent, Saul est-il parmi les prophètes? C'est une réprimande envers Saul. L'esprit réprimande réellement Saul, mais le même proverbe est cité. Une fois qu'il est dit que les gens sont incrédules, Saul fait-il partie des prophètes? Il va être roi. Est-il aussi parmi les prophètes? Les gens sont incrédules. Et l'autre, l'esprit l'arrête, Saul est-il parmi les prophètes? Cela signifie qu'il vient d'être réprimandé. Il est nu par terre. Et de toute façon, il ne peut pas poursuivre et tuer David. Le même proverbe apparaît donc dans deux situations. Le même proverbe est apparu dans deux situations avec deux significations différentes et comment il fonctionne là-bas. Donc, cette polynature du proverbe. L'utilisation du proverbe s'est poursuivie ici. Les proverbes fonctionnent également avec insistance. Un proverbe est utilisé à des fins sociales ou émotionnelles plutôt que pour communiquer des informations. Ainsi, le proverbe évoque souvent des émotions pour établir et maintenir ou restaurer des relations sociales, pour renforcer la solidarité au sein de la communauté. Des coups si différents pour différentes personnes. Et c'était dans ma génération, c'était un proverbe typique. Aujourd'hui, il se résume à un seul mot. C'est, peu importe. Mais à mon époque, c'était, des coups différents pour différentes personnes. Au moins, cela avait une petite saveur proverbiale. Et cela est ensuite adopté par la culture de l'année dans laquelle j'ai grandi, des traits différents pour des personnes différentes. Et donc, la communauté l'accepte et ensuite elle est transmise. Proverbe 1, 17, comme il est inutile d'étendre le filet et d'avoir une vue complète sur tous les oiseaux, est un argument concluant dans Proverbe 1. Il se déroule à travers l'histoire de Madame la Sagesse avertissant son fils. Et il descend et dit, « Mon fils, ne sois pas comme un de ces oiseaux. Comme c'est inutile d'étendre le filet et d'avoir une vue complète sur tous les oiseaux. En d'autres termes, je vous dis ceci, réveillez-vous comme un oiseau. Le gars arrive avec un filet. Il voit un filet et l'oiseau s'envole. Alors, quand ces gars viennent vous séduire dans la violence ou quoi que ce soit de méchant, de choses qu'ils font, et que vous voyez ce filet venir vers vous, envolez-vous de là. Comme c'est inutile d'étendre le filet. Si bien que cette métaphore et proverbe de l'oiseau est utilisée pour avertir le jeune de sortir de là. Ainsi, le proverbe est facilement identifiable. On passe de la description littérale de voyous versant le sang innocent à une métaphore proverbiale avec l'image d'un oiseau et d'un piège. Alors, au fur et à mesure, un oiseau et un piège, le proverbe, tous ces voyous tentent de séduire le jeune homme pour qu'il s'engage et rejoigne leur groupe, leur gang. Alors s'il vous plaît, rejoignez notre gang et regardez tout l'argent que vous recevrez et tout ça. Et le proverbial père sage dit, non, ne fais pas ça, mec. C'est comme un oiseau qui a un filet. Ils viennent pour toi, mec. Ils vont vous piéger. un autre endroit qui dit que c'est comme une flèche prête à transpercer votre cœur. En d'autres termes, vous êtes comme un cerf attendant que la flèche lui transperce le cœur. Sors d'ici. Ne les laissez pas tirer. Se déplacer. Sortir. Voici un proverbe utilisé pour clôturer une dispute. Ainsi, dans le premier chapitre des proverbes, c'est un dicton instructif. C'est une leçon du père au fils, mais comment le père conclut-il son argument? Il termine son argumentation par ce proverbe. Il a une instruction, une conférence, qu'il donne à son fils. Il termine cette conférence avec ce proverbe. Ne soyez pas comme l'oiseau. Le net arrive. L'oiseau est assez intelligent pour s'envoler. Tu devrais être comme ça. Et donc, c'est très intéressant dans les proverbes africains. Devinez ce qu'ils utilisent. Ils utilisent des proverbes pour conclure une dispute dans une affaire judiciaire. Très souvent, le gars défendra sa cause dans un cadre juridique et il conclura. Et comment parvient-il à convaincre? Il utilise un proverbe. Pourquoi? Parce que tout le monde s'accorde à dire que la hâte fait du gaspillage. Donc, si vous pouvez citer un proverbe, tout le monde dans cette communauté est d'accord là-dessus. Et si vous pouvez citer le proverbe à la fin, vous venez de conclure votre cause parce qu'elle est acceptée par tout le monde et qu'elle fait autorité. Il a de la force et tout ça. Donc, dans un contexte juridique, très intéressant. Les proverbes africains fonctionnent ainsi. Très similaire à ce que le sage utilise dans Proverbe 1.17 pour conclure ses arguments. Maintenant, proverbes dans un recueil polyvalent, comme nous l'avons vu, et décontextualisé. Ils sont extraits de leur contexte et intégrés à cette collection virtuelle afin de pouvoir être utilisés dans des centaines de contextes différents. Il faut comprendre l'impact du genre sur le texte. Vous devez comprendre le genre auquel vous avez affaire. Élie sort et se souvient qu'Élie était au sommet du mont Carmel et que les prophètes de Baal, ces environ 400 prophètes de Baal sont venus là-bas et il a dit, « D'accord, le Dieu qui répond par le feu, c'est le vrai Dieu. » Ainsi, les prophètes de Baal ont commencé à danser autour de cet autel en espérant que Baal, qui était un dieu foudroyant, était le problème avec Jéhovah ou Yahvé. Il n'était vraiment spécialisé dans rien. Baal était un fou d'éclair. Il chevauchait les nuages. C'est pourquoi il donne la pluie, la grêle et les éclairs. Et donc il s'est spécialisé là-dedans. Mais Jéhovah, en quelque sorte, ne fait pas ça. Il fait en quelque sorte tout. Et ainsi, il y vient voir ses prophètes de Baal et il leur dit, « Crie plus fort, mec. » Il danse, se coupe et des trucs comme se coupe. Et cela semble familier dans la culture moderne. Mais de toute façon, et se couper. Et il dit, « Crie plus fort. » C'est sûrement un dieu. Maintenant, il y dit-il que Baal est sûrement un dieu. Non, ça s'appelle du sarcasme. Et si vous ne captez pas le sarcasme le renverse pour signifier exactement le contraire de ce qu'il vient de dire. Si vous manquez le, vous allez penser, Élie était-il un adorateur de Baal? Elia, Elia. Elle est mon Yahvé, Yahvé est mon Dieu, même en son nom. Et alors, il vient vers le prophète, ses autres prophètes, il crie plus fort. Peut-être qu'il dort ou peut-être qu'il est sur le pot. Le pauvre Baal est sur la marmite là-haut. Il ne peut pas faire briller l'éclair. Et ce que fait Elia, c'est qu'il se moque de ces gens. C'est du sarcasme. Vous ne pouvez pas prendre cela au pied de la lettre. Et donc, vous devez comprendre le genre avec lequel vous travaillez. Et lorsque vous travaillez avec des proverbes, vous devez alors comprendre comment les proverbes sont passés de ces recueils du livre des proverbes à des situations et à des choses réelles. Les proverbes ne sont pas destinés à être dogmatisés ou absolutisés en une vérité propositionnelle universelle. Je dis, eh bien, la Bible est vraie. Permettez-moi de relire ceci. Les proverbes ne sont pas destinés à être dogmatisés ou absolutisés en une vérité propositionnelle universelle. C'est l'erreur que les amis de Job ont commise. Prenez un proverbe et universalisez-le dans toutes les situations. Non, un proverbe ne s'applique pas à toutes les situations. Il faut être sage pour savoir comprendre cela. Sinon, tu es un imbécile qui brandit un proverbe comme un buisson d'épines et tu vas faire du mal aux gens. Livre des proverbes également, proverbes 26, 4 et 5 dont nous venons de parler dans une conférence précédente, ne répondez pas à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. D'accord. Ne répondez pas à l'insensé selon sa folie, de peur que vous ne soyez comme lui. Ne répondez pas à l'insensé selon sa folie, de peur que vous ne soyez comme lui. Alors, tu ne devrais pas répondre idiot, non? Que dit le prochain proverbe? Répondez à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. Alors ces deux proverbes, boum, ils aiment presque citer, se contredisent. Et ce que cela veut dire, c'est qu'on ne peut pas absolutiser, on ne peut pas universaliser un proverbe. On dit de répondre à un insensé selon sa folie. On dit de ne pas répondre à un imbécile. Vous ne pouvez pas universaliser cela. Vous ne pouvez pas dogmatiser cela. Il faut donc faire très attention aux proverbes. Comment comprendre l'autorité d'un proverbe? Comment comprendre l'autorité d'un proverbe? Et c'est la question à laquelle nous abordons en ce moment. Quelle est l'autorité d'un proverbe? Proverbe 10.4 le dit, la pauvreté vient d'une main paresseuse. La pauvreté vient d'une main paresseuse, mais une main diligente crée la richesse. Une main diligente fait la richesse. Est-ce une promesse de Dieu? La pauvreté vient d'une main paresseuse, mais une main diligente crée la richesse. Je vais avoir une main diligente et Dieu m'a promis la richesse. Vous travaillez dur pour devenir riche. Alors, ce que dit ce proverbe, pouvez-vous penser à des contre-exemples? Pouvez-vous penser à des personnes qui travaillent très dur et ne deviennent pas riches? Je pourrais vous en donner les noms dès maintenant. Ils travaillent beaucoup plus dur que moi et ils ne deviennent pas riches. Et je connais d'autres personnes qui sont vraiment paresseuses. Ce sont des gens paresseux et pourtant ils sont assis dans le luxe. Des gens paresseux et pourtant ils prospèrent économiquement par d'autres moyens. Ce proverbe n'est donc clairement pas une promesse. Et donc, vous devez séparer cela. Le livre des proverbes indique que même si travailler dur mène au profit, les mauvais compagnons ou l'avidité peuvent en réalité détruire les efforts de la personne. Ainsi, une personne peut travailler dur et construire quelque chose, mais une personne méchante peut venir détruire ce pourquoi elle a travaillé pendant la moitié de sa vie en quelques secondes. Et donc, il y a des proverbes, laissez-moi juste, un proverbe est un peu comme un vecteur en physique. Un vecteur dit, ok, le proverbe est comme un petit vecteur qui dit, ok, travaille dur, deviens riche. Maintenant, question, c'est simpliste. La vie est-elle plus complexe que cela? Oui, c'est le cas. Mais ce vecteur, travailler dur, devenir riche, c'est une valeur importante à apprendre. Et c'est un vecteur important. Maintenant, est-ce que cela décrit toute la vie? Non, cela décrit cette seule composante de la vie. Il se peut qu'une personne méchante vienne détruire toutes vos richesses. Et donc les méchants font violence et détruisent des choses. Et donc, il y a un autre vecteur qui l'envoie comme ça. Et il existe un autre vecteur comme celui-ci. Et donc, ce que je dis, c'est que vous appreniez tout le livre des proverbes, parce que beaucoup de proverbes finiront par agir et seront invoqués ou deviendront réalité ou recontextualisés dans une situation particulière. Ainsi, une situation peut réunir de nombreuses choses proverbiales. Un proverbe n'est donc pas une promesse. Un proverbe n'est pas destiné à être dogmatisé ou absolutisé en une vérité propositionnelle universelle. Éduquer un enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Est-ce une garantie, une promesse de Dieu? Proverbe 22:6. Éduquer un enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Question, connaissez-vous des parents qui ont formé leurs enfants de la manière dont ils devraient le faire? Et les enfants disent, je m'en vais, j'ai 18 ans, ou maintenant ils ont 30 ans et je m'en vais. Et ils s'en vont et rejettent tout ce que leurs parents leur ont appris. J'ai connu des situations comme ça. Et vous aussi. J'ai également connu des gens qui venaient de foyers violents où il y avait de nombreux abus, du trafic sexuel et d'autres choses où la personne avait changé la situation et l'avait transformée en bien. Les parents les ont entraînés au mal, mais la personne a fait des choix et a changé la donne. Ainsi, le proverbe dit, éduquez un enfant dans la voie qu'il suivra lorsqu'il sera vieux et ne s'en éloignera pas. Quand j'étais plus jeune, j'étais père et cela me faisait peur. Être père m'a fait peur. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai étudié le livre des proverbes. Je voulais être un bon père. Je n'y suis pas vraiment parvenu, mais quoi qu'il en soit, j'ai étudié le livre des proverbes sur ce que signifiait être un bon père. Et au lycée, à mesure que les enfants grandissent, il y a une sorte de rupture qui se produit à l'adolescence. Maintenant, au lycée, vous savez, vous arrivez en 7e, 8e, 9e, 10e année, et les enfants déploient alors leurs ailes. Et parfois c'est bien, parfois c'est mauvais. et j'ai été vraiment dévasté en tant que père de devoir réaliser que j'étais un échec. J'ai vraiment tout gâché. J'ai vraiment tout gâché. Et ça faisait vraiment très mal. Et j'ai regardé les proverbes, le livre des proverbes, et j'étudiais tout ça sur la façon d'être un bon père. J'avais 3 étagères pleines de livres académiques sur la façon d'être père. Soit dit en passant, la paternité a été réellement détruite dans notre culture. Il y a eu un conflit fondamental entre le gouvernement et le père, et le gouvernement a fondamentalement détruit la paternité et une grande partie de notre culture, en particulier dans les communautés noires et autres communautés. La notion même de paternité a vraiment été détruite. Et donc, j'ai étudié cela, puis j'ai dû réaliser mon propre échec en tant que père. Et puis former un enfant sur la voie qu'il suivra lorsqu'il sera assez grand pour s'en éloigner. Alors, j'ai regardé cela et je me suis dit, d'accord, j'ai vraiment dû me tromper ici parce que, et ainsi, puis je suis allé à Ésaïe 1, 2, où Dieu dit, le Père parfait, Dieu dit, j'étais ton Père. Je t'ai donné les meilleurs commandements du monde et tu t'es rebellé contre moi. Mon Dieu, le Père parfait avait des enfants rebelles. Dieu, le Père parfait, a amené ses enfants, les Israélites, à se rebeller contre lui encore et encore. Si vous ne le croyez pas, lisez encore et encore le livre des Nombres. Si vous ne croyez pas cela, allez dans l'Exode et allez au chapitre 20 et suivant, en fait au chapitre 15 et suivant, et voyez que Dieu leur a donné tous ces miracles et toutes ces choses et ils se sont rebellés contre lui encore et encore. Et finalement, les enfants de Dieu font quoi à son propre fils, son propre fils? Il envoie tous ses messagers, mes serviteurs, les prophètes, ils vont avertir le peuple, retournez à Dieu. Et puis finalement il dit, j'enverrai mon fils. Que font-ils du fils? Ils attrapent le fil et le tuent. D'accord. Éduquer un enfant sur la voie qu'il doit suivre lorsqu'il sera vieux et ne s'en éloigne pas, Dieu était le Père parfait. Il a formé ses enfants, leur a donné sa loi, leur a donné sa parole et leur a donné son fils. Et ils se sont rebellés contre lui et ont fini par tuer son fils. Les proverbes ne sont donc pas des promesses. Et vous devez vous en rendre compte. Un proverbe vous donne un vecteur sur la réalité. Il existe de nombreux vecteurs qui s'appliquent dans certaines situations. Et donc, vous comprenez que la vie est plus complexe qu'un simple proverbe et tout. Il s'agit donc d'une réalité complexe. Maintenant, autorité d'autorité proverbiale, je l'ai divisée en 5 catégories. Or, celles-ci sont quelque peu arbitraires. Je les ai inventées. Je suis désolé. Je les ai inventés en lisant le livre des proverbes et en essayant de le digérer. Les proverbes vous confèrent certains niveaux d'autorité. Et donc, j'ai remarqué qu'il y en avait environ 5. Maintenant, je ne dis pas que le nombre parfait serait 7, bien sûr, mais je l'ai raté. J'en ai 5. Et d'autres personnes peuvent, Steinman, je pense dans son excellent commentaire, diviser la situation d'une autre manière ou autre. Mais ce ne sont que des choses qui me sont venues à l'esprit en réfléchissant au livre des proverbes. La première catégorie, ce sont les niveaux d'autorité. Tous les proverbes sont-ils dotés d'une immense autorité? Vous devez faire ça. Non. Alors laissez-moi juste vous donner un exemple. Premièrement, un mandat universel. Je veux appeler cela plus, un mandat universel. C'est toujours vrai. Vous devriez toujours faire cela. Proverbe 3, 5, beaucoup d'entre vous connaissent ce verset, confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Quand est-ce vrai? Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il dirigera vos chemins. C'est un mandat universel. Vous dites, Hildebrand, vous venez de nous dire de ne pas universaliser cela. Non, c'est un mandat universel. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Faites toujours ça. C'est un mandat universel, plus. Un mandat universel, c'est le numéro 1. Cela a une très forte universalité. Maintenant, permettez-moi de descendre d'un niveau. C'est le numéro 2, une exhortation idéale de confirmation. Proverbe chapitre 10, 4, une main molle entraîne la pauvreté. Une main diligente rend riche. C'est généralement vrai. Une main paresseuse rend pauvre, une main diligente rend riche. C'est généralement vrai. Ce n'est pas toujours vrai. C'est généralement vrai. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Il existe des contre-exemples à cela. Par conséquent, je veux dire que c'est une exhortation de confirmation idéale. En d'autres termes, il essaie de nous dire de faire preuve de diligence. Ne soyez pas paresseux. Si tu es paresseux, tu seras pauvre. Soyez diligent, vous serez riche. Certes, il existe d'autres facteurs dans la vie, mais c'est le vecteur général de ce vecteur. Alors foncez. C'est une exhortation de confirmation idéale. C'est le numéro 2. Troisièmement, j'aime citer la vieille chanson. C'est un proverbe, c'est comme ça. C'est une observation simple et non morale. En d'autres termes, le sage regarde la situation. Il fait une observation non morale, simple et non morale. C'est une observation de la vie. C'est comme ça. Ce n'est peut-être pas vrai. C'est peut-être faux. C'est comme ça. Cela ne vous dit pas, vous devez le faire. C'est juste pour dire que c'est comme ça. Tu ferais mieux de cliquer sur celui-là dans ton esprit. Vous le reconnaissez quand vous le voyez, mais c'est comme ça. C'est une observation simple et non morale. Proverbe 14h10. Proverbe 14.10, le cœur connaît sa propre amertume et aucun étranger ne partage sa joie. Le cœur connaît sa propre amertume et aucun étranger ne partage sa joie. Il ne dit pas, fais ça. Il dit, c'est comme ça. Un cœur connaît sa propre amertume. Chaque cœur connaît sa propre amertume et aucun étranger ne partage sa joie. Un autre proverbe qui serait là, tel quel, les riches ont beaucoup d'amis, mais les pauvres ne peuvent pas trouver d'amis. Les riches ont beaucoup d'amis. Proverbe 14h20, maintenant, est-il en train de dire, eh bien, c'est une bonne chose? Non, il ne dit ni une bonne ni une mauvaise chose. Il dit, c'est comme ça, mec. C'est comme ça. Ainsi, certains proverbes ne vous disent pas avec autorité de faire ceci ou de ne pas faire cela. Ils disent que c'est comme ça. C'est donc le numéro 3. C'est comme ça. Donc vous en avez un qui dit, faites ça tout le temps. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Vous avez un autre idéal qui confirme, travaillez dur, devenez riche, soyez paresseux, soyez pauvre. Et puis vous êtes exactement comme ça. Chaque cœur connaît sa propre amertume et personne d'autre ne peut partager sa joie. Ensuite, du côté négatif, numéro 4, vous avez un avertissement de non-confirmation idéale. Un avertissement de confirmation idéale. Quiconque calomnie révèle des secrets. C'est généralement vrai. Quiconque calomnie révèle des secrets. Vous ne voulez pas de vos secrets. Vous parlez à un calomniateur, il va révéler vos secrets. Donc, cela veut dire que c'est généralement vrai. Maintenant, il est possible que si le calomniateur est votre très bon ami, il ne propage pas la calomnie et ce genre de choses. Il y a donc d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Donc, c'est un idéal, c'est un avertissement négatif, un idéal infirmant. Proverbe 11h13. Et puis le cinquième est l'interdiction absolue. On est donc passé d'un mandat universel, la confiance dans le Seigneur, à une interdiction absolue affirmant que cela est toujours faux. Ne fais pas ça. C'est une interdiction absolue. J'utiliserai Proverbe 6h16 et suivant pour cela. Il y a six choses que l'Éternel est, sept qui lui sont en abomination. Des yeux hautains. Ne fais pas ça. Vous ne devriez pas être fier et arrogant. Une langue menteuse. Vous ne mentez pas. Vous dites toujours la vérité. Ce sont des interdictions négatives absolues. Une langue menteuse, une main qui verse le sang innocent. C'est ce que ces voyous essaient de faire au jeune homme, à s'engager dans la violence, dans le gang, à ne pas verser le sang innocent. Le cœur qui conçoit de mauvais projets, les pieds qui courent vers le mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème la discorde entre frères. Vous ne voulez pas être ce genre de personne. Six choses que le Seigneur déteste, sept, ne faites pas ça. Ce sont des interdictions universelles et absolues. Et ainsi, vous êtes passé d'un mandat positif et positif à une exhortation idéale et confirmatrice à le faire. Vous l'avez fait, c'est comme ça. Alors vous avez un négatif. Ne fais pas ça. Passage. Et puis l'interdiction absolue, ne faites jamais ça. Et donc ces différents niveaux d'autorité qui sont placés sur chacun des proverbes, et vous devez faire le tri entre cela. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai juste inventé ces cinq catégories, mais tout ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque vous lisez les proverbes, ce n'est pas le cas, et je l'ai dit, l'autorité des proverbes n'est pas uniforme et plat. L'autorité d'un proverbe n'est pas uniforme et plate mais variée et profilée en fonction de l'usage dans le contexte dans lequel il est utilisé. Et donc, vous feriez attention. L'autorité des proverbes n'est pas plate et uniforme. C'est varié, c'est profilé, et cela dépend de la situation et d'autres choses. Et il faut être assez intelligent. C'est pour cela qu'il faut de la sagesse. Vous devez être suffisamment sage pour savoir quand et comment comprendre ce proverbe qui s'interface avec la situation pour laquelle il est utilisé. L'interprète avisé doit éviter d'universaliser et de dogmatiser les dictons proverbiaux. L'usage proverbial doit être pris en compte, qui peut n'avoir rien à voir avec la proposition faisant autorité et faisant autorité. Peut-être que les proverbes sont cités simplement pour leur humour pointu. Ainsi, certains proverbes sont censés être humoristiques, comme celui du paresseux. Ils ont un type paresseux et ce type est trop paresseux pour ramener la nourriture à sa bouche. Et donc, c'est une sorte de parodie. C'est une moquerie du paresseux. C'est censé être humoristique. Alors, ne comprenez pas, quelle est la vérité propositionnelle de ce dicton? Ce n'est pas le propos. C'est fait pour l'humour. Et vous en avez un autre dans Proverbe 23, qui était dans Proverbe 19, 24. Mais dans Proverbe 23.34, il parle de l'ivrogne et décrit un ivrogne comme quelqu'un qui s'accroche à un mât et le mât du bateau va et vient. Et l'ivrogne fait en quelque sorte un va-et-vient et un va-et-vient. Il s'agit d'essayer de décrire de manière parodique, une sorte de manière satirique. Si tu bois trop, tu vas marcher comme ça, mec. Et ils le font même jusqu'à ce jour. Suivez la file d'attente lorsque vous êtes arrêté pour un DUI. Conduite en état d'ébriété sous influence. Et donc, si une personne est ivre, elle ne peut pas marcher en ligne droite. Et donc, ce proverbe dit ici, vous êtes comme un gars qui s'accroche au mât d'un navire, un navire qui balance ses voiles et qui patauge partout. Ainsi, parfois, les proverbes sont destinés à l'humour. Donc, vous devez vous éloigner de cette histoire de vérité propositionnelle et dire simplement que c'est censé être drôle. A-t-on le droit de faire de l'humour? D'accord. Oui, les proverbes le disent. Oralité, quel est le rapport de l'oralité aux énoncés proverbiaux? Le caractère oral des proverbes ne doit pas être négligé dans leur création, leur transmission et leur utilisation. Les proverbes sont souvent transmis oralement. Ce n'est pas un hasard si le thème de la parole et de la communication orale est central, tant dans la littérature de sagesse égyptienne que dans les proverbes israélites. Proverbe 12h18. Il y en a un dont les paroles téméraires sont comme un coup d'épée. Les mots blessent les gens. Les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne peuvent jamais me blesser. C'est des bêtises. Les mots peuvent faire très mal. Donc ce proverbe ne marche pas vraiment, mais ça marche parfois. Bâtons et des pierres. Il y en a dont les paroles téméraires sont comme un coup d'épée, mais la langue du sage apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. C'est le genre de langue que vous voulez. Celui qui parle et guérit les autres. Proverbe 12h18. Donc, cette notion de parole, d'oralité, c'est partout dans le livre des proverbes. Les implications orales se trouvent dans la phrase souvent répétée, « Écoute, mon fils, les instructions de ton père, tiens compte de l'enseignement de ta mère. » D'accord. Et bien souvent, « Écoute, mon fils, c'est oral. » C'est oral. Écoute, écoute, mon fils, les instructions de ton père. Mider note qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une histoire derrière chaque proverbe moderne. Nous en avons en quelque sorte parlé. Un proverbe est une capture, une histoire résumée. Proverbe moderne avec variation. Ne changez pas de cheval en plein milieu du guet. Ne changez pas de cheval en plein milieu du guet. N'échangez pas de chevaux en traversant un ruisseau. Ces deux proverbes sont donc très similaires. Et au fond, ce que vous avez, c'est dans cette transmission orale, le proverbe change souvent. Et donc, cette oralité permet de changer cette sorte de fluidité du proverbe. L'oralité peut aider à expliquer les variations des proverbes en double, qui sont nombreuses. Un gars nommé Snell a écrit un livre brillant, « Quand j'étais plus jeune, je n'ai pas apprécié. Mais en vieillissant, ce livre est phénoménal. » Proverbe dit deux fois. Proverbe raconté deux fois par Snell. Knut Heim a également écrit un livre sur l'imagination poétique qui est tout simplement merveilleux et qui reprend ses proverbes en double et parcourt tout le livre des proverbes. Le livre de Knut Heim compte probablement 600 pages. C'est un livre brillant. Et ici, par exemple, permettez-moi de vous montrer que Proverbe 14, 12 est égal à Proverbe 16, 25. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais sa fin est la voie de la mort. Beaucoup d'entre nous ont mémorisé ce verset. Il existe une voie qui semble juste à un homme, mais sa fin est la mort. Et cela est ensuite répété dans Proverbe 14, 12 et 16, 25. Il existe également des proverbes avec une répétition de versets entiers avec un mot commuté. Le proverbe entier est donné, répété, mais avec un mot inversé. Proverbe 19, 5 et Proverbe 19, 9. Le témoin de mensonge ne sera pas déclaré innocent et celui qui témoigne de mensonge n'échappera pas, Proverbe 19, 9, seulement 4 versets plus bas. Un témoin de mensonge ne sera pas déclaré innocent. Cette traduction, parfois le SV me dérange vraiment dans le caractère boisé de sa traduction. Ceci en est un exemple. Ce n'est pas très proverbial. Ils ont en quelque sorte détruit ce moment proverbial, si vous voulez. Je suis désolé. Mais de toute façon, un témoin de mensonge ne sera pas déclaré innocent et celui qui a témoigné de mensonge périra. Ainsi, vous remarquerez dans le premier qu'ils sont exactement les mêmes, sauf que celui qui témoigne de mensonge ne s'échappera pas alors qu'un témoin de mensonge périra. Ainsi, dans l'un, le gars ne s'échappera pas, mais dans l'autre, périra. Donc, c'est pareil, mais le seul mot est activé. Donc même proverbe, un mot changé. Il existe un proverbe répété 3 fois avec des modifications. Ainsi, ce proverbe est raconté 3 fois dans le livre des proverbes avec des modifications. Donc, vous pouvez voir que l'oralité permet ce genre de flexibilité. Il est dit, un fils sage, chapitre 10, 1, chapitre 10, 1 des proverbes, un fils sage fait un père heureux, mais un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Si vous passez au chapitre 15, 20, même type de proverbe. Il est dit, un fils sage fait un père heureux, c'est la même chose. Un fils sage fait un père heureux, mais un homme insensé méprise sa mère. Ainsi, vous voyez la partie B de ce proverbe, un homme sage, un homme insensé méprise sa mère, ce n'est pas un fils insensé qui est un chagrin pour sa mère. Et puis dans Proverbe 17, 25, c'est un proverbe répété 3 fois. Il est dit, un fils insensé est un chagrin pour son père et une amertume pour celle qu'il a enfantée. Alors ici c'est un chagrin et une amertume, les deux sont négatifs sur celui-là. Mais vous pouvez voir que Proverbe 17, 25 est lié à 10, 1, un fils sage apporte de la joie à un père, un fils insensé est un chagrin pour une mère. Et maintenant il est dit, un fils insensé est un chagrin pour son père et une amertume pour celle qu'il a enfantée. C'est donc un proverbe répété 3 fois, mais vous pouvez voir les variations qu'il y avait dans les proverbes. Et c'est en quelque sorte la norme avec les proverbes dans toutes les cultures, dans toutes les langues, où il y aura ces proverbes en double avec ces variations. C'est en grande partie l'oralité qui explique cela. Souvent, les variations sont introduites dans des répétitions de vers entiers et avec une variation d'un seul mot. Nous avons examiné cela. Il en existe également avec des variantes à 2 mots, Proverbe 10, 1 et 15, 20 et des variantes à 3 mots, Proverbe chapitre 10, 2, 11, 4, 15, 13 et 17, 22. Ainsi, dans chacun de ces cas, le proverbe se répète. Changement d'un mot, changement de 2 mots, changement de 3 mots et nombreux recueils, les recueils modernes citent le même proverbe avec de multiples variantes. Parfois, les proverbes sont volontairement déformés et Midère a tout un livre sur les proverbes tordus qui est tout simplement génial, comme tous ses livres sont sur les proverbes. Il est comme je l'ai dit, c'est le plus grand expert mondial en parémiologie. Alors parfois, ils sont tordus, mais il y a un côté ludique dans les proverbes. Je pense que les gens devraient parfois se détendre et simplement dire, et, c'est, vous savez, alors épargner la canne et gâter l'enfant. Avez-vous déjà entendu celui-là? Oh, on ne dit plus celui-là. D'accord. C'est illégal. Nous devrions annuler celui-là. Épargner la tige et épargner l'enfant. D'accord. Épargner le bâton et gâter l'enfant devient gâter le bâton et épargner l'enfant. Gâter la tige. Alors, il retourne les 2 mots, abîme la tige et épargne l'enfant. En voici un autre. Couchez-vous tôt, levez-vous tôt et vous serez en bonne santé, riche et sage. J'aime bien celui-ci. Je suis une personne du matin. Couchez-vous tôt, levez-vous tôt et vous deviendrez en bonne santé, riche et sage. Eh bien, ce proverbe, il y a un changement. Il dit ceci, couchez-vous tôt, levez-vous tôt et votre copine sort avec d'autres gars. Laissez-moi recommencer. Couche-toi tôt, lève-toi tôt et ta copine sort avec d'autres gars. Vous dites, oups, il y a aussi une part de vérité là-dedans. Quoi qu'il en soit, c'est une sorte de torsion ludique des proverbes. Je pense toujours que, l'absence rend le cœur plus affectueux. Quand j'étais au séminaire, j'étais séparé de ma femme. Elle était à Buffalo, New York. J'étais à Philadelphie. Tu vas au séminaire. L'absence rend le cœur plus affectueux. C'est difficile de réviser pour tes cours quand tu penses à ta petite amie. Nous avons donc fini par nous marier et le reste appartient à l'histoire. Mais bon, 49 ans, les plus belles années de ma vie. La seule chose que je sais, c'est que, l'absence rend le cœur plus affectueux. Où est-ce, l'absence fait vagabonder le cœur? Hors de vue, hors de l'esprit? D'accord. Et ainsi, vous pouvez voir comment un proverbe peut être joué dans une sorte de variation ludique. Or, le mot hébreu pour proverbe est le mot machal. Et le terme est utilisé dans les proverbes de Salomon, les machalim, le proverbe de Salomon dans Proverbe 1, 1. Je pense qu'il est également utilisé dans 10, 1, etc. Cela signifie souvent ressemblance ou similitude, mais il y a des variations assez divergentes sur ce mot machal. Le mot traduit par « proverbe » peut en réalité signifier bien plus de choses qu'un simple proverbe. Ainsi, ce mot machal en hébreu peut en fait être utilisé à propos de dictons populaires dans Jérémie 23, 28, des dictons populaires. Il peut être utilisé comme aphorisme littéraire dans les chapitres 10, 1 à 22, 16 des proverbes. Ce sont des aphorismes, des phrases courtes, et c'est utilisé pour les décrire. Dans Ésaïe 14, 4, machal est utilisé pour un chant de provocation, un chant de provocation. Habacuc chapitre 2, versets 6 à 8, un mot-clé, un mot qui sort. C'est connu de tous et généralement dans un contexte honteux. Deutéronome chapitre 28, verset 37, machal est utilisé comme synonyme. Et dans Ézéchiel 17, 1 à 10, il est utilisé pour une allégorie. Y a-t-il des allégories dans la Bible? Oui, il y en a. Dans Ézéchiel 17, 1 à 10, une allégorie et elle est décrite comme un machal. Machal est donc le terme hébreu pour allégorie, en d'autres termes, vous ne pouvez pas prendre un mot en hébreu et dire qu'il signifie un mot en anglais. Machal signifie toujours proverbe. Non, machal en hébreu, il y a plusieurs choses qui peuvent signifier un synonyme, une provocation. Cela peut signifier un aphorisme. Cela peut signifier une allégorie. Et donc, ce seul mot peut prendre plusieurs significations et autre chose. Machal appelle à réfléchir et à établir des liens. Donc, dans tout cela, vous avez une déclaration machal qui appelle essentiellement la personne à établir des liens avec la situation actuelle. Les proverbes utilisent souvent le son. Les techniques sonores sont souvent utilisées dans les proverbes comme en anglais. Comme en anglais, la pratique rend parfait. Vous voyez les deux P? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Deux PS, pardonne et oublie. Pardonner et oublier, avec les deux F là-bas. Un point attend en vaut neuf. Comme nous l'avons dit, c'était une rime. Un point attend en vaut neuf. La rime là. La hâte fait des déchets. La hâte fait du gaspillage, ou, le goût fait la taille. C'est ma déformation de la phrase proverbiale. Voici une phrase normale. Dieu a créé les humains et les gens gagnent de l'argent. Dieu a créé les humains et les gens gagnent de l'argent. Voilà qui est intégré dans ce proverbe. Dieu a créé l'homme, l'homme a créé l'argent. Dieu a créé l'homme, l'homme a créé l'argent. Entends-tu sa maman 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 mon son? Dieu a créé l'homme, l'homme a créé l'argent. La répétition du son MMM. Cela se produit également en hébreu, et pas seulement en anglais. Proverbe chapitre 10, 9a, il est dit, celui qui marche honnêtement marche en toute sécurité. Celui qui marche honnêtement marche en toute sécurité. Laissez-moi le relire. Celui qui marche honnêtement marche en toute sécurité. Cholek betom, yelek beta. Le cholek et le yelek sont le même mot, marche. D'accord. Cholek, yelek, et vous pouvez entendre les similitudes. Betam, en toute sécurité ou honnêtement, avec betak, en toute sécurité. Ainsi, les deux ont un bt, bt, le deuxième mot et le quatrième mot, bt, bt. Betam, beta. Olek, yelek, olek, yelek, premier mot et troisième mot, deuxième mot et quatrième mot. Betam, beta. D'accord. Donc le son, vous pouvez l'entendre. Olek, Betam, Yelek, Betak. D'accord. Notez les terminaisons symétriques du BT et les terminaisons ek à la fin de celui-ci. Il n'est pas surprenant que ceux qui ont édité les proverbes utilisent également le son pour relier les choses entre elles. Proverbe chapitre 11, 9 à 11, 11, 9 à 11, ils commencent tous par AB, ce qui signifie par ou avec, ce qui est la même chose, mais avec le mot en devant. U signifie un dans ce contexte. Donc, vous avez le chapitre 11, 9, 9B, 10B, 11B, les six lignes là-bas, jusqu'en bas. Et ainsi, cela commence et pour que les liens puis proverbe 11h 9 à 11 soient liés par le son. Sur le prochain. Parallélisme. Nous avons déjà remarqué que les proverbes sont parallélisés. Marc Essénier note que la plupart des proverbes en dehors du livre des proverbes sont des dictons d'une seule ligne. Juge chapitre 8, verset 21, 1 Samuel 24, 13, etc. Le livre de Carole Fontaine, dicton traditionnel de l'Ancien Testament, et l'article de Essénier dans le récent brillant livre de Dell, Biblical Wisdom Literature, à la page 85. La seule ligne en dehors du livre des proverbes n'est qu'une seule ligne. Dans les proverbes, vous obtenez, un fils sage apporte de la joie à son père, un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Il y a deux lignes. Poétiquement, ils ont les lignes bicolon, bi, deux lignes, deux lignes. Ainsi, un fils sage apporte de la joie à son père, un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Mais en dehors du livre des proverbes, il ne s'agit que d'une seule ligne. En tant qu'homme, sa force l'est aussi. Ainsi, les proverbes phrases dans le livre des proverbes que nous examinons seront principalement des proverbes à deux lignes, et non un seul proverbe d'une seule ligne. Les phrases proverbiales sont alors intégrées dans le parallélisme parce que les proverbes sont un livre poétique. Et ainsi, quand vous parcourez le livre des proverbes, vous remarquerez que même en anglais, ils l'ont ligne par ligne. Ce n'est pas écrit en paragraphes comme les récits historiques. Si vous passez au livre de la Genèse, vous voyez paragraphe, paragraphe, paragraphe. Dans les proverbes et les psaumes et dans vos livres poétiques, c'est ligne par ligne. La poésie est une ligne, conduite par une ligne. Ensuite, les récits historiques sont axés sur les paragraphes. Et ainsi, vous pouvez voir que c'est simple, rapide, facile, même en anglais moderne, facile à venir, facile à partir. Voyez-vous le parallélisme là-bas? C'est la vie. Il y a là un parallélisme. Mais en hébreu, la méthode traditionnelle de répugnance, et je connais le travail de Kugel etc., j'ai fait beaucoup de travail sur la poésie hébraïque. Donc je simplifie les choses. Et je simplifie évidemment à l'extrême, mais aussi ce qu'on appelle le parallélisme. Cela signifie deux lignes allant dans la même direction, ABC, 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 ABC. Et ils vont tous les deux dans la même direction. C'est ce qu'on appelle le parallélisme synonyme. Proverbe chapitre 16, verset 28, une personne perverse, sujet, verbe, attise la discorde, objet. Un potin, sujet, sépare, verbe, ami proche. Ainsi, une personne perverse attise les dissensions et des ragots sépare les amis proches, disant au fond la même chose, allant dans le même sens. Et donc comment les lignes racontent cela? Et je réalise que lorsque vous dites synonyme, et c'est l'une des grandes critiques du travail de Laut, c'est que lorsque vous dites synonyme, cela ne veut pas dire que ceci est égal à cela. D'accord. Un synonyme a à la fois des goûts, des similitudes et des dissemblances. Et donc, chaque fois que vous dites, vous avez un parallélisme synonyme, vous dites, comment est-ce synonyme? Comment ça se ressemble? Mais il faut aussi se demander, en quoi est-ce différent? Comment la deuxième ligne va-t-elle au-delà de la première ligne? Et donc, dites-vous, en gros, en quoi est-ce similaire? En quoi est-ce différent? Ainsi, vous pouvez utiliser un axe X, Y et X. En quoi est-ce similaire? Et en quoi est-ce différent? Et vous parcourez chaque A, B, C, et vous demandez, en quoi est-ce similaire? En quoi est-ce différent? En quoi est-ce similaire? En quoi est-ce différent? En quoi est-ce similaire? En quoi est-ce différent? Et vous pouvez alors faire une analyse de cette façon. Je suis désolé, je m'en prends à ce genre de choses. Nous pourrions y consacrer des heures. Parallélisme antithétique. Donc aussi parallélisme, deux droites allant dans la même direction, ABC, ABC. Le parallélisme antithétique se produit lorsque les lignes vont dans des directions opposées. Un fils sage fait la joie d'un père, Proverbe 10.1. Un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Cela vous montre en quelque sorte l'antithèse. Ainsi, un fils sage est comparable à un fils insensé, apporte de la joie, apporte du chagrin au père et à la mère. Ce ne sont pas des opposés comme ça. Ils sont en fait complémentaires. Donc, quand on fait l'antithèse, oui, le père et la mère sont différents, mais ce n'est pas le sujet. Le fait est que les parents sont complémentaires. Et donc, cela divise les parents, le père et la mère de manière complémentaire. C'est un parallélisme antithétique. Quand deux lignes ressemblent à ceci, un fils sage apporte de la joie, un fils insensé apporte du chagrin. Or, un proverbe emblématique ou un parallélisme emblématique, c'est lorsqu'il utilise une métaphore ou une comparaison. Ainsi, vous avez, à la lumière du visage du roi et la vie et sa faveur est comme un nuage de pluie printanière. Sa faveur est comme un nuage de pluie printanière. Encore une fois, je n'aime pas la traduction ici, mais de toute façon, emblématique est alors cet usage métaphorique, abaissé, abaissé, mais c'est abaissé et abaissé du deuxième vers qui le prend ensuite dans cette métaphore d'un nuage, comme un nuage avec un printemps pluie. Ce serait une comparaison, comme un nuage avec une pluie printanière. Le proverbe synthétique signifie ABCDEF. En d'autres termes, le parallélisme synthétique signifie qu'il y a deux lignes, mais ABC ne l'est pas, cela devient ABCDEF. En d'autres termes, cela vous emmène dans cette direction. Ainsi, par exemple, Proverbe chapitre 16, 7, quand les voies d'un homme sont agréables à l'Éternel, il fait vivre en paix ses ennemis. Donc, vous avez ABC, A, les voies de la personne, B sont agréables, C, au Seigneur, et ensuite D, il fait, E, vivre en paix, F, ses ennemis. C'est ce qu'on appelle du synthétique. Lorsqu'elles sont synthétiques, il y a deux lignes qui ne sont pas vraiment parallèles. Ils ne sont ni antithétiques, ni synonymes, ni métaphoriques. Ils appellent ça du synthétique. C'est essentiellement une façon de faire du painting. Alors ok. Maintenant, plusieurs fois dans ces lignes parallèles, et j'en parle juste pour pousser un peu la poésie. Dans Proverbe 14, 19, il y a ce qu'on appelle l'espacement des verbes. Très souvent, la première ligne vous donnera l'énoncé complet et la deuxième ligne espacera le verbe, en supposant que vous, en tant qu'auditeur ou lecteur, fournirez le verbe. Ainsi, le verbe est supprimé ou l'une des unités est supprimée. Donc, vous avez ABC, A, C et le B est supprimé. Et puis, généralement, ce qui se passe lorsqu'un élément est supprimé, un autre élément sera étendu pour donner aux lignes la même longueur. Ce sera donc ABC, 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 le B sera supprimé, mais le C sera ensuite amélioré plus longtemps. Ainsi, les A et C seront plus expansifs. Ainsi, par exemple, Proverbe 14, 19, les méchants se prosternent devant les bons. Ainsi le mal est le sujet, s'incliner est le verbe, l'objet est avant le bien. La deuxième ligne est, les méchants aux portes des justes. Aux portes des justes, quoi? Ils s'inclinent. Ainsi, le « s'incline » n'est pas dit dans la deuxième ligne. C'est une question de suspension. Il a été abandonné. C'est troué. Ils appellent ça le béant. Et ils ont vidé cette unité. Mais alors remarquez que le dernier élément, l'objet, aux portes du juste, l'autre dit avant le bon, court et doux. Celui-ci dit, aux portes des justes, il est élargi pour que les lignes soient de la même longueur, on pourrait appeler cela une compensation. Mais le verbe est supprimé et le verbe doit être fourni par l'interprète. C'est ce qu'on appelle l'espacement des verbes. Cela arrive souvent. C'est pourquoi j'en parle ici, parce que cela arrive si souvent. Parallélisme syntaxique. Parallélisme syntaxique. Les gens détestent la syntaxe, mais elle est ici dans la poésie hébraïque. Donc, vous entendez SVO, sujet, verbe, objet. SVO, sujet, verbe, objet. Et parfois, il s'agit de SVOM, sujet, verbe, objet et modificateur. Ainsi, dans Proverbe 10, 12, il est dit, N, sujet, verbe, attise, objet, dissension. Mais aimer, sujet, couvre, verbe, tous les torts, objet. Donc, c'est, la haine, attise, dissension, SVO. Et la deuxième ligne, mais l'amour couvre tous les torts, SVO. Ce qui est intéressant dans celui-ci, et cela sonne vraiment bien en anglais, c'est que, la haine attise les dissensions, mais l'amour couvre tous les torts. C'est une belle poésie antithétique. La haine attise les dissensions, mais l'amour couvre tous les torts. C'est intéressant en hébreu, ce n'est pas l'ordre. En hébreu, l'ordre est SVO, OVS. SVO, OVS. Donc, c'est ABC, CBA. L'ordre est inversé dans la deuxième ligne, ce qui est en fait une structure chiastique. Et je pense, et avant de parler de chiasme, c'est ABA. Si vous connectez le A, 2A et connectez les deux B, cela fait un X. En anglais, nous l'appelons un chi-X, en grec, ou chi, certaines personnes c'est plutôt chi, chiasme. D'accord. Donc le chiasme est ABA. La deuxième ligne de l'ordre est inversée. Et donc, nous avons une structure chiasmatique ici, et c'est juste une chose plutôt sympa qu'ils font en hébreu avec la structure chiastique. D'accord. Maintenant, figure de style proverbial, figure de style proverbial. Je n'aime pas ça. Ces figures de style ne sont pas des choses frivoles que vous saupoudrez sur le proverbe pour le rendre plus mémorable, pour le rendre plus sophistiqué. Et donc, vous avez ces figures de style qui ne font que le transformer en ce genre de choses métaphoriques. Je n'aime pas la façon de penser comme ça. J'aime davantage la façon dont les scientifiques cognitifs d'aujourd'hui traiteraient la linguistique cognitive, alors que nos cerveaux sont programmés pour penser métaphoriquement et pour penser métonymie et métaphore, ces deux choses. Il y a eu une énorme étude de la métaphore et de la métonymie dans la linguistique cognitive moderne qui peut nous aider énormément à comprendre les métaphores et la métonymie dans les écritures basées sur la science cognitive. Et cela m'a été vraiment utile. Mais nous en parlerons quand même, nous allons juste, c'est un véritable résumé et vous devez regarder les linguistes cognitifs, ce qu'ils font. C'est riche et c'est profond et c'est bon. Or, la métonymie, qu'est-ce qu'une métonymie? Lorsqu'un mot ou une expression est utilisé pour un autre, remplacé par un autre. Ainsi, par exemple, Proverbe 27:24b dit, « Et une couronne n'est pas assurée pour toutes les générations, et une couronne n'est pas assurée pour toutes les générations. » Parle-t-on vraiment d'une couronne? Ou la couronne est-elle une métonymie pour le roi? Et une couronne où, le roi n'est pas assuré pour toutes les générations. Ainsi, la couronne est un mot de substitution qui remplace le mot roi. La couronne représente le roi. C'est ce qu'on appelle une métonymie. Nous ferions cela en anglais, nous dirions que le banc a décidé. Le banc dans une affaire judiciaire, disons dans une salle d'audience, c'est le banc qui a décidé. Eh bien, cela signifie que le juge a décidé, mais nous appelons le juge le banc. Le banc est ce sur quoi il est assis et des trucs comme ça. Ou c'est la Maison Blanche qui a décidé. La Maison Blanche a décidé. Et donc, la Maison Blanche a décidé, signifie en réalité que le président a décidé ou aujourd'hui, probablement ses conseillers autour de lui ont décidé et ensuite ils lui disent quoi dire, en espérant qu'ils disent ce qu'ils ont dit. Quoi qu'il en soit, la Maison Blanche a décidé, vous savez, les responsables, c'est le président qui a décidé. C'est ce qu'on appelle une métonymie. Un mot en remplace un autre. J'essaierai de soutenir dans une autre conférence que la crainte de Dieu est une métonymie. Le nom de Dieu, faisant référence au nom de Dieu, le nom, est en fait une métonymie de Dieu lui-même. Ainsi, la métonymie est aujourd'hui une chose énorme en linguistique cognitive et mérite vraiment d'être étudiée. Je sais que nous avons beaucoup fait avec la métaphore et qu'il existe de nouvelles façons de considérer la métaphore. Il existe des façons très intéressantes d'envisager les métaphores par Fred Putnam, un de mes amis. Quoi qu'il en soit, il a beaucoup travaillé sur la manière métaphorique d'envisager les métaphores de la Bible. Et c'est vraiment très riche et ça ouvre vraiment des horizons. Il faut l'étudier. Des comparaisons. Les comparaisons sont des comparaisons entre deux domaines différents utilisant « comme » ou « comme ». Comparaison entre deux royaumes, des royaumes différents, en utilisant « like » ou « a » pour cartographier l'un sur l'autre. Proverbe 12:18 dit ceci, « Les paroles imprudentes transpercent comme une épée. Les mots imprudents transpercent comme une épée. Comme une épée transperce et blesse les gens. Ainsi, les mots transpercent comme une épée. Ainsi, comme une épée, serait une comparaison. Ce serait donc une comparaison utilisée dans les proverbes. Métaphore. Les métaphores sont une comparaison entre deux domaines qui n'utilisent pas le mot comme ou comme. Ainsi, par exemple, dans Proverbe 18:10, nous avons, le nom de l'Éternel est une tour forte. Alors vous demandez, en quoi le nom du Seigneur ressemble-t-il à une tour forte? Que représente une tour forte? Sécurité et protection et tout un tas d'autres choses. Et puis vous pouvez le relier à d'autres types de choses de type sécurité, comme le fait que le nom du Seigneur est une tour solide, mais le nom du Seigneur est aussi un rocher. Ou, vous savez, vous pouvez également obtenir ces images rocheuses offrant la même sécurité et la même protection. Alors, quel est le lien entre la roche et une forteresse ou une tour solide? Et donc les métaphores sont cette comparaison. Le nom du Seigneur est comme une tour forte. Et donc ces métaphores, comparaisons, métonymies, hyperboles. L'hyperbole est une exagération qui aide le proverbe à attirer l'attention. Tout est juste dans l'amour et la guerre. Est-ce que ça veut vraiment dire tout? Toujours dire tout? Chaque fois que vous voyez le mot tout, vous devez vous poser quelques questions. Est-ce que ça veut vraiment tout dire? Tout Jérusalem est sorti voir Jean-Baptiste. Est-ce vraiment vrai? Tout Jérusalem, tout le monde à Jérusalem est sorti voir Jean-Baptiste? Non, c'est une hyperbole. C'est une exagération. Il y avait un gars infirme dans Jean 5 qui ne s'est pas échappé de la piscine de Bethesda. Il n'a pas parcouru tout le chemin jusqu'à là pour se faire baptiser par Jean-Baptiste au bord du Jourdain, depuis Jérusalem. L'hyperbole est donc une exagération. Et donc, vous devez être très prudent lorsque la Bible parle de manière hyperbolique, comme si votre œil péchait, arrachez-le. Est-ce que tu vas vraiment faire ça? Ou Jésus dans le sermon sur la montagne, c'est une hyperbole. C'est une exagération. Cela ne veut pas dire que vous vous arrachez l'œil, car vous devrez alors vous arracher l'autre œil. En fait, ton cœur est également corrompu. Il faudrait vous couper le cœur. Il ne resterait plus rien de toi. Quoi qu'il en soit, une hyperbole est une exagération. Ainsi, lorsque vous mangez avec le roi, mettez-vous un couteau sous la gorge si vous êtes enclin à la gourmandise. Proverbe 23:2 maintenant, cela signifie-t-il réellement que vous devriez vous mettre un couteau sous la gorge lorsque vous mangez avec le roi? Non, il te dit juste, et, quand tu manges devant le roi, fais preuve de bonne manière. Ne tombez pas dans la gourmandise et ne mangez pas quand vous êtes devant le roi parce qu'il va voir ça et il va dire, et, mec, ce type est un glouton. Alors mets-toi un couteau sous la gorge. C'est une hyperbole. C'est une exagération. Maintenant une synecdoque. Or, une synecdoque est en réalité une sorte de métonymie. Donc, vous avez la métonymie comme grande catégorie. Une synecdoque est un type de métonymie. Et c'est quelque chose comme « tout le monde sur le pont ». Lorsque vous dites « tout le monde sur le pont », vous ne voulez pas dire que tout le monde met la main sur votre deck. Ce que vous voulez dire, c'est que « toutes les mains » représentent tout le monde. En gros, tous les marins s'engagent à ce moment-là. Tout le monde sur le pont signifie que tout le monde devrait s'engager à ce stade. Toutes les mains représentent les personnes qui utilisent leurs mains. Ainsi, la langue dans Proverbe 17:7, la langue du juste est de l'argent de choix. La langue des justes. Maintenant, est-ce qu'il dit juste sa langue? Ouais, langue d'argent. On dirait un gars avec une langue argentée. L'un des pères de l'église s'appelait Silver Tongue. La langue du juste est un argent précieux. L'argent est une métaphore et la langue du juste parle de l'ensemble du juste et de son discours. Personnification. La personnification est une autre figure de style largement utilisée dans Proverbe 1 à 9 où la sagesse est personnifiée. L'idée de sagesse, Hokma, est en réalité personnifiée dans une personne appelée Madame la Sagesse. Alors, la femme tente de prévenir le jeune homme de Madame Folie qui va tenter de le séduire. Et puis la sagesse est personnifiée par une femme qui avertit. Alors, la sagesse appelle dans les rues, Proverbe chapitre 1 verset 20. Elle rit, Proverbe 1, 26. Elle a construit sa maison. Elle, la sagesse, a bâti sa maison au chapitre 9 des Proverbes. Ainsi, la sagesse est représentée comme une femme qui construit sa maison, qui rit, qui s'offre et appelle dans la rue. Et cela s'appelle la personnification. Les Proverbes 1 à 9 auront beaucoup à dire sur la personnification de la sagesse. Maintenant, les thèmes et le vocabulaire proverbiaux. Un proverbe est défini, nous prononçons de courtes phrases pleines d'esprit. Quels sont les thèmes dont on parle habituellement dans la sagesse? Outre la structuration sonore, le parallélisme et l'utilisation accrue de figures de style, le genre proverbial biblique est également marqué par certains thèmes et vocabulaires qui délimitent son espace conceptuel. Ainsi, thèmes et vocabulaire baliseront son espace conceptuel. Ouibray a une merveilleuse liste de vocabulaire de sagesse. Je vais juste en énumérer quelques-uns ici. Il en a beaucoup, beaucoup d'autres. Le manque de sens pointe vers le contexte de la sagesse. Imbécile, quand on parle d'imbécile, vous comprenez en quelque sorte que vous êtes en territoire de sagesse. Conseiller, simple ou simplet, moqueur, perspicace, intelligent, discipliné, la voix est un thème immense, quand vous voyez la voix, vous êtes en territoire de sagesse. Connaissance, discernement, bénédiction et diverses formes de sagesse, hokma, pour n'en nommer que quelques-unes. J'ai aussi remarqué que le syntagme nominal, le NP, X de Y du Y, la tête des justes, la bouche des méchants. Ainsi, le X du Y, cette expression est également très typique dans Proverbes, Proverbe 10, 6, la tête des justes, Proverbe 10, 6. Alors, quand vous comprenez cela, la bouche des méchants, la tête des justes, vous dites, la sagesse, une sorte de façon de penser. Il y a souvent un usage intensif de paires de mots antithétiques. Il existe donc des paires de mots qui sont des antithétiques, des antithèses, des antonymes, non pas des synonymes, mais des antonymes. Et ainsi, vous avez les sages et les insensés. Et quand vous voyez des sages et des insensés, boum, cela déclenche un contexte de sagesse. C'est la terminologie de la sagesse. Je suis peut-être dans la littérature de sagesse ici. Sage et insensé, juste et méchant. Quand vous voyez juste, méchant, juste, méchant, juste, méchant, le problème avec certaines traductions, y compris le NLT sur lequel j'ai travaillé, c'est qu'elles ne traduisent pas juste, juste tout le temps. Donc, ce n'est pas juste, méchant. Souvent, cela se traduit par sadique, juste. Ils le traduisent par pieux, pieux et méchant. Et je ne suis pas sûr du contraste qui brise réellement le contraste. Et j'aurais aimé que nous puissions l'être, de toute façon, c'est une longue histoire là-bas. Mais de toute façon, les justes et les méchants, les diligents et les paresseux, et les diligents. Et ces deux choses, encore une fois, sont antithétiques, le paresseux et le diligent. Le diligent travaille dur, le paresseux est paresseux. Donc ces antithèses, sage insensé, juste méchant, diligent en paresseux ou paresseux. Quand vous voyez ce genre d'antithèse surgir, vous dites, c'est un territoire proverbial ici. Thème majeur abordé dans les proverbes, les justes et les méchants constituent un thème majeur. Le sage et l'insensé est un thème majeur. Le diligent et le paresseux sont un thème majeur. Riche et pauvre, c'est un thème majeur. Thème d'amitié. Le livre des proverbes parle beaucoup des amis. La parole, on en parle beaucoup. Les femmes séductrices et vertueuses, on en parle beaucoup dans les proverbes. La vie et la mort. On y parle de famille. Yahvé et le roi sont courants dans les proverbes. Ce sont donc des thèmes majeurs. Il y a un gars, Derek Kidner, qui a écrit il y a des années un petit livre d'IVP, InterVarsity Press, Commentary on Proverbs, il a fait un travail merveilleux en isolant certains de ces thèmes majeurs. C'est un bon traitement, le livre de Derek Kidner sur les proverbes, court et doux. Sujets introuvables dans les proverbes. Nous avons fait toute une conférence sur ce qu'on ne trouve pas dans les proverbes. Nous avons fait ce qu'un proverbe n'est pas, et maintenant nous faisons ce qu'est un proverbe. Donc, aucun proverbe n'est trouvé. Le temple n'est pas mentionné, aucun sacerdoce n'est mentionné, aucun prophète n'est mentionné, aucune histoire de rédemption, aucun grand acte de salut, aucune fête d'Israël, aucun exode, ce sont des thèmes majeurs qui se retrouvent tout au long de l'Ancien Testament. On ne les trouve jamais dans les proverbes. L'alliance elle-même, l'alliance, ne se trouve pas dans les proverbes. Aucune condamnation de l'idolâtrie. L'idolâtrie est condamnée depuis un point, je veux dire, en fait depuis Genèse 3 jusqu'au bout et les prophètes s'en moquent. Je veux dire, chapitre après chapitre après chapitre dans Ésaïe et Jérémie, l'idolâtrie est condamnée, catégoriquement condamnée partout dans les Écritures, y compris les psaumes. L'idolâtrie est condamnée, et pourtant elle n'est jamais mentionnée, pas un mot dans les proverbes. Choix des noms de personnes, les noms de personnes ne se retrouvent dans les proverbes que dans les titres. Les noms de lieux ne se trouvent que dans les titres et les noms de lieux, les noms de personnes, et aussi les noms de groupes de personnes, Moabites, Ammonites, Édomites, Gergésites, Jébusiens, aucun des Hittites, Philistins, même Philistins, qui sont partout ne sont pas mentionnés une seule fois. Tous les Hittites sont mentionnés une fois dans le livre des proverbes. Les proverbes sont donc différents. Les sujets sont différents. La manière d'en discuter est différente. Et nous l'avons noté dans cette autre conférence à laquelle nous étions présents. Maintenant, il y a 8 classifications de structures profondes que j'aimerais simplement parcourir. Nous avons développé cela sur la base du motif et nous l'avons fait dans une autre conférence, mais je veux juste passer en revue rapidement ici. C'est le sous-jacent, nous avons parlé de la structure superficielle, de la structure superficielle, de la grammaire, du SVO, du sujet, du verbe, de l'objet, du sujet, du verbe, de l'objet. Et nous avons parlé de modifications à cela. Nous avons parlé de certains mots sémantiques, mots, sons, sons et sens, et de la façon dont le son, alak, betom, yalak, betak, et de la façon dont le son fait écho, la hâte fait du gaspillage, et Dieu a créé les hommes gagnaient de l'argent, un peu le son MMMM. Et donc ça sonne. Et maintenant, ce que je veux regarder, c'est regarder la structure profonde sous la grammaire et les mots eux-mêmes qui montent, vous savez, sage et insensé, méchant et juste, lent, et en dessous, la structure de ces proverbes. Et donc je l'ai divisé en sujets et commentaires, puis j'ai essentiellement examiné les conséquences du personnage. Et j'ai examiné les proverbes 10 à 15, qui sont les phrases qui s'y trouvent. Et j'ai découvert qu'il y avait 7 conséquences de caractère, il y en a 152. Et je vous donne quelques-unes des références ici dans Proverbes chapitre 10, 2b, mais la justice délivre de la mort, conséquence du caractère, mais la justice délivre de la mort, conséquence du caractère la mort, mais la justice délivre de la mort. C'est donc une conséquence du caractère. Il y en a 152. Donc, c'est une structure sous-jacente très importante, une conséquence du caractère, une structure sous-jacente majeure dans le livre des Proverbes, une conséquence du caractère. Acte de caractère. Proverbe 10, 14a, le sage, la connaissance, le caractère, le sage, que fait-il? Il accumule des connaissances. Donc des connaissances sages, du caractère, puis de l'action. Évaluation du caractère, numéro 3, évaluation du caractère, Proverbe chapitre 10, 20a, la langue du juste est de l'argent de choix, caractère, la langue du juste. Rappelez-vous que la langue des justes, ce genre de phrase nominale, vous dit que ce sont les proverbes et la sagesse. La langue du juste est un argent précieux. Choice Silver utilise une métaphore pour vous dire que c'est une valeur. Donc, vous avez une évaluation du caractère. Nous avons donc une conséquence de personnage, un acte de personnage majeur, 70 fois. Et évaluation du caractère 16 fois dans cette section des proverbes. Vous avez acte conséquence 63 fois, Proverbe chapitre 10, 17a, celui qui tient compte des instructions, agit, est sur le chemin de la vie, conséquence. Celui qui suit les instructions, tel est l'acte, est sur le chemin de la vie. Ainsi, la conséquence de l'acte est effectuée 63 fois. Je pense que l'étude que j'ai faite sur la motivation dans Proverbe 10 à 15, ce que j'ai montré était contraire à Koch et à certains de ces autres gens qui disent que l'acte conséquence est la structure sous-jacente majeure du livre des Proverbes, acte conséquence, 63 fois. Cependant, j'ai pu montrer que plus de 150 fois c'était quoi? Caractère conséquence. Ainsi, le véritable problème dans les proverbes n'est pas la conséquence de l'acte, ce qui est important, mais la conséquence du caractère est encore plus grande. Donc, lorsque vous parlez des conséquences d'un acte, rappelez-vous toujours, et, pensez à l'arrière de votre tête, les conséquences du personnage sont plus importantes et voyez si le proverbe correspond à cela. Conséquence, du fruit de sa bouche, l'homme mange ce qui est bon. Objet conséquence du fruit de sa bouche. L'évaluation des objets, la richesse d'un homme riche, Proverbe 10, 15, est une ville forte. Évaluation des articles. Et puis les deux derniers, l'évaluation de l'acte, celui qui aime la discipline aime la connaissance. Agissez, celui qui aime la discipline, Proverbe 12, 1, aime la connaissance. Et puis celui-ci est le huitième, il est plutôt intéressant, en apparence et en réalité. Cette apparence et cette réalité, on fait semblant d'être riche mais on n'a rien, on fait semblant d'être riche mais on n'a rien. Un autre prétend être pauvre mais possède une grande richesse, Proverbe chapitre 13, 7. Donc, cette apparence contre la réalité. Ainsi, essaie de dire le sage, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Donc, acte conséquence, 62 fois, Koch, Van Rad et autres, acte conséquence est grand, mais je vous suggère que caractère conséquence est 152 fois, c'est presque le double de ce qu'est l'acte conséquence, est une structure sous-jacente pour le livre des proverbes et ce qu'est un proverbe. Maintenant, le proverbial cite Simleben ou la situation de la vie, le cadre d'où naissent les proverbes. Quels sont le réglage, les réglages, le pluriel? Trois contextes sont proposés à partir desquels les proverbes sont issus. L'un concerne les écoles et les enseignants. L'un concerne les écoles et les enseignants. Deux est la famille ou le clan, les parents, la famille ou le clan ou les parents. C'est le numéro 2. Et puis le numéro 3 est la cour royale et les scribes, la cour royale et les scribes et les courtisans. Voilà donc les trois contextes dont sont issus les proverbes du livre des proverbes. École, famille et clan, cour royale et scribes. Maintenant, les écoles, permettez-moi d'aborder cela rapidement. C'est ce qu'on appelle Sitzim Leben. Si jamais vous êtes dans la littérature technique, la situation de la vie, il y a une situation dont elles sont issues, École. La première mention explicite des écoles en Israël se trouve dans Ben Sirach 51, 23, Ben Sirach 51, 23. Et Ben Sirach apparaît vers 180 avant J.C., mais 180 avant J.C., c'est quoi, environ 150 ans après Alexandre le Grand. Donc, voici Ben Sirach, c'est l'un des livres des apocryphes, mais c'est le premier à mentionner les écoles en Israël donc nous n'en avons pas parlé plus tôt. Nous plaidons pour cela, les proverbes provenant des écoles, largement basés sur les parallèles de l'Égypte et de la Mésopotamie. La Mésopotamie avait des écoles, tout comme l'Égypte. Maintenant, Israël est en quelque sorte le pays intermédiaire. Et donc, ils ont projeté si la Mésopotamie avait des écoles, l'Égypte en avait, probablement Israël aussi, mais c'est une conjecture. L'intention didactique des proverbes s'adapte au contexte scolaire. C'est donc une autre façon pour eux de défendre les écoles. En d'autres termes, nous n'avons aucune mention des écoles au début de l'histoire d'Israël. Ben Sirach est la première mention, mais les écoles de Mésopotamie et d'Égypte, ainsi que l'intention didactique des proverbes, conviennent au cadre scolaire. Proverbes chapitre 5, 13, « Je n'ai pas écouté la voix de mes professeurs et je n'ai pas prêté l'oreille à mes instructeurs. » Ainsi ici, dans Proverbes 5, 13, il mentionne ses professeurs et ses instructeurs. Ainsi, un enseignant et un instructeur semblent être dans un cadre scolaire. Et c'est donc une intention didactique de Proverbes 5.13. Le père dont on parle, écoute mon fils, les instructions de ton père, Proverbes 3.1, 4.1, peu importe. Un père parlant, le père peut être à la place d'un professeur d'école. C'est pour cela qu'il se considère peut-être comme un père, mais il est en réalité le professeur. Et il prend peut-être ce terme de père, mais c'est en réalité un enseignant. Et c'est donc une autre chose qui suggérerait les écoles. C'est ce que suggéraient les écoles, qui ont fait l'objet de vifs débats lors de la rentrée scolaire en Israël. Et je ne veux pas entrer dans tout ce grand débat. Origine familiale et clanique. Beaucoup de proverbes africains proviennent d'un contexte clanique, tribal ou familial, etc. On parle fréquemment du père et de la mère, du père et de la mère et du fils. Proverbe 4, 1, 3, 4, voici les fils de l'instruction de leur père et soyez attentifs afin de mieux comprendre. Quand j'étais fils avec mon père, tendre et seul aux yeux de ma mère. Il parle donc du jeune âge tendre où il a été instruit par son père et sa mère. Il semble donc que cela vienne d'un cadre familial. Il m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur s'accroche à mes paroles, garde mes commandements et vis. Maintenant, mes commandements, dit-il, il ne dit pas les commandements de Moïse, vous savez, les mitzvot, en faisant référence aux commandements de Moïse. Il dit, mes commandements. Ainsi, le père ici, lorsqu'il utilise le mot commandement, parle de ce qu'il a enseigné à son enfant. Proverbe 31, 1, est un oracle que sa mère, la mère de Lémuel, lui a enseigné, au fils de mon ventre. Et nous pouvons juste voir une mère parler, au fils de mon ventre, Lémuel, mon fils, parle au roi Lémuel. Un oracle que lui a enseigné sa mère. Et cela semble donc être, encore une fois, une origine familiale, même s'il s'agit d'une famille royale. Le contexte populaire peut être vu dans Proverbe 10, 5, celui qui rassemble en été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et donc, vous savez, dormir pendant la récolte et travailler pendant la récolte semble provenir d'un contexte folklorique. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas seulement de récolter ses récoltes, mais il semble y avoir aussi un contexte urbain aussi, où il est fréquemment question dans le livre des proverbes de la ville, des portes de la ville, etc., et du roi, de la ville. Portez les rois, dans Proverbes 16 et bien d'autres endroits. Le roi est mentionné et la ville est également fréquemment mentionnée. Même les seigneurs de la tour forte la situeraient dans un contexte de type urbain. Donc, ce n'est pas strictement ça, et vous ne pouvez pas diviser en deux, wham, bam, c'est du folk, c'est sorti, ces gars sont un groupe d'agriculteurs, ce sont des citadins. Ce n'était pas tout à fait ainsi. Et donc, on ne peut pas faire une bifurcation comme ça. Mais peu importe, les origines familiales et claniques, oui. La cour et le scribe, maintenant il y a eu une tonne de travail sur ces courtisans où les scribes et le roi et les scribes et le roi et la cour royale dans les proverbes. Le roi Salomon est mentionné, dans le chapitre 1 des proverbes, vous savez, les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. D'accord, proverbe 10, 1, ce sont les proverbes de Salomon, d'accord. Même proverbe 25, 1, ce sont les proverbes de Salomon copiés et édités par les hommes d'Ézéchia. Et donc, Ézéchia est le roi et il a une collection de proverbes salomoniens et ses scribes, les hommes d'Ézéchia les copient, alors faites les chapitres 25 à 29. C'est de là qu'ils viennent. Donc, cela se déroule dans une sorte de roi Salomon, roi Ézéchia, roi Lémuel, c'est en 31. Cela se déroule dans ce cadre royal et le roi Ézéchia, comme nous l'avons mentionné, le roi Lémuel au chapitre 31. Sages, ce sont les proverbes des sages, chapitre 22, 17, chapitre 24, 23 et chapitre 30, 1, les sages sont mentionnés. La présence du roi est dans tant de proverbes, chapitre 16, 10 à 16, roi, 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 roi. Comment agir devant un roi? Malko voit les proverbes 28, 29, il l'appelle, un manuel pour les monarques, un manuel pour les monarques ou un manuel pour le ou les rois. Alors, tu veux être un bon roi? Regardez ces proverbes, ils vous aident à être un bon roi. Manuel pour les monarques, au chapitre 28 et 29. De nombreuses études sur les scribes de sagesse réalisées par un gars nommé Léo Perdu ont fait des volumes et un travail vraiment excellent. Léo Perdu a étudié auprès de Crenshaw, qui est en quelque sorte le grand-père de l'étude de littérature sur la sagesse à l'université Vanderbilt il y a des années. Les choses semblent changer dans les temps modernes. Ce n'est que mon opinion personnelle, mais il venait de Vanderbilt avec Crenshaw et ses étudiants, Kovacs et Perdu. Je suis heureux que certains de ces autres gars aient tous étudié la littérature de sagesse sous la direction de Crenshaw. C'est en quelque sorte déplacé maintenant vers l'université de Cambridge avec Catherine Dell et ses étudiants qui publient également des choses vraiment intéressantes. Et Knut Heim, que j'ai enregistré au Denver Seminary, fait aussi des choses vraiment intéressantes. Tellement moderne en ce moment, excusez-moi, des parallèles avec l'Égypte et la Mésopotamie. Les scribes sont impliqués dans la littérature de sagesse égyptienne et la littérature de sagesse mésopotamienne. Et le problème c'est qu'il faut être prudent. Golka et Westermann ont démontré à partir de parallèles africains qu'un proverbe sur la récolte de la terre pouvait facilement être écrit à la cour royale. C'est une information importante. Ainsi, un proverbe qui parle d'un fils moissonnant et moissonnant pourrait également être dit à la cour royale. Et ils ont étudié les proverbes africains. Et donc même certains membres de la royauté parlent de récolte maintenant, car encore une fois, il s'agit d'une sorte de culture dimorphique où vous avez l'urbain et le plus rural combinés en un seul. Et il n'y a pas de grande différence entre les deux. Et ainsi, Westermann et Golka le notent. Il faut donc être très prudent avant de dire que le simple fait que les images utilisent une sorte d'imagerie agricole rurale ne signifie pas nécessairement qu'elles ne proviennent pas de la cour du roi. Maintenant, grand changement. Désolé, cela prend tellement de temps, mais nous sommes maintenant dans des formes proverbiales. Quelles sont les formes des proverbes? Nous avons parlé de la structure superficielle, de la poésie, du son et du sens, et de diverses choses d'où proviennent les proverbes, des écoles, de la cour royale ou de la famille. Nous avons vu les catégories de structures profondes de conséquences de caractère, de conséquences d'actes. Nous voulons maintenant examiner quelles sont les microformes réelles ou appeler ces choses de micro-genres, de petites unités utilisées dans les proverbes. Ils sont enregistrés dans des contextes historiques comme Nimro, un puissant chasseur devant le Seigneur, Genèse 10.9. Comme nous le disions autrefois, il y avait un unilinéaire, il y en avait un comme, excusez-moi, comme Nimro, un puissant chasseur devant le Seigneur. Donc, une seule ligne. Dans les proverbes, ce sont tous deux lignes, ils sont bicolons, et souvent ils constituent un parallélisme antithétique. Et alors les gens ont dit, eh bien, ensuite ils sont passés d'une seule ligne, et puis au fil du temps, ils se sont développés en deux lignes poétiques. C'est trop simpliste. Vous ne pouvez pas passer d'une ligne singulière à deux lignes, disons qu'il y a là une évolution. C'est trop simpliste. Cela ne correspond pas aux anciens modèles de collection du Proche-Orient. Dans le livre des Proverbes, il existe clairement deux types de formes littéraires. Maintenant, ce sont les grands types. Il y a des instructions dans Proverbes 1 à 9. Il y a des instructions dans ces instructions dans les chapitres 1 à 9 des Proverbes, puis également dans les chapitres 22 à 24, puis dans le chapitre 31, versets 1 à 9. Ce sont donc en grande partie les Proverbes 1 à 9 qui constituent ces 10 instructions. Vous trouverez également des instructions dans les chapitres 22 à 24. Et puis les phrases. Les phrases se trouvent dans les Proverbes octobre 2022 et 25 à 29. Les Proverbes 10 à 22, puis 25 à 29 sont ces phrases. Un fils sage apporte de la joie à son père, un fils insensé est un chagrin pour sa mère. Prononciation de phrase. Ainsi, le livre des Proverbes est divisé en ses instructions, 10 instructions, chapitres 1 à 9, les phrases prononcées plus tard dans les chapitres 10 et suivants, les chapitres 22 à 24 étant en quelque sorte intégrés là-dedans. Maintenant, quelques-unes des formes proverbiales. Le mot proverbe, comme nous l'avons dit, machal. Machal peut être utilisé, comme nous l'avons déjà dit, pour étiqueter différents genres. Ainsi, cela peut être utilisé comme un dicton populaire, cela peut être utilisé comme un aphorisme littéraire, cela peut être utilisé comme une chanson de provocation, cela peut être utilisé comme un mot, une allégorie, et en fait celui que j'ai ajouté ici était les oracles prophétiques. De Balaam sont appelés Machalim. Leurs numéros sont 23 à 7. Les oracles prophétiques de Balaam sont également mis sous ce terme Machal, qui y est traduit par proverbe. Maintenant des formes proverbiales, des instructions. Voici donc notre première microforme proverbiale, des instructions. Les instructions commencent ainsi, Proverbe chapitre 1 à 9, 10 instructions, Proverbe 22 à 24. Il s'agit donc en grande partie des deux sections, Proverbe 1 à 9. Lorsque vous commencez à lire les proverbes, ce sont ces conférences ou instructions plus longues. Écoute, mon fils, les instructions de ton père. Ne niez pas l'enseignement de votre mère, ce genre de choses. Écoute, mon fils, les instructions de ton père. Fox divise les instructions des proverbes 1 à 9 en 10 conférences père-fils. Chapitre 1 verset août 2019, chapitre 2, janvier 2022, chapitre 3, janvier 2012, etc., etc. Vous pouvez y voir les chiffres. Entre ces instructions et ce père-enfant de l'instruction, ces 10 conférences père-fils sont 5 intermèdes. Ainsi, le boom, boom, boom s'intercale entre eux. Et ceci est Proverbe 1, 20-33 et chapitre 3h30, chapitre 6, 1-19, etc. Et le chapitre 8, tout le chapitre là-bas, le chapitre 9, tout le chapitre là-bas, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle des intermèdes. Et donc, il a ses 10 instructions père-fils. Écoute, mon fils, les instructions de ton père, avec ses intermèdes, 5 intermèdes disséminés entre les chapitres 1 à 9. Maintenant, la forme des instructions, quelle est la forme? Tout d'abord, vous avez un appel. Premièrement, vous avez un appel à entendre. Écoute, mon fils, les instructions de ton père. Écoutez, mon fils est au chapitre 2, 1, chapitre 3, 1, 4, 1 et 5, 1. C'est comme ça qu'il commence. Écoute, mon fils, SMA, entends, entends mon fils, c'est un appel à entendre ou à écouter. Ainsi, l'appel à entendre est suivi d'une exhortation. Écoute et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Par exemple, chapitre 1h8, chapitre 2, 1b à 5, chapitre 3.1, chapitre 4.1, chapitre 5.3. Ces exhortations, écoute, mon fils, n'abandonne pas, est une exhortation. Ensuite, il y a généralement une motivation explicite. Ainsi, dans l'instruction, c'est suivi d'un appel à entendre, d'une exhortation, puis d'une motivation. La motivation est généralement, comme nous l'avons dit, lorsque nous avons rédigé les clauses de motivation, un qui, pour, ou, parce que. Car ils seront une guirlande pour ta tête. Proverbe chapitre 1.9, chapitre 2.6, 3.2 et 5.3. Il y a une motivation explicite pour ou parce qu'ils vous donneront la vie et la richesse, ce genre de choses. Maintenant, numéro 4. Il y a une véritable leçon. Et ainsi, dans Proverbes chapitre 1, 10 à 16, le proverbial sage-père donne une leçon. Et puis généralement c'est conclu, numéro 5, c'est conclu. Et la conclusion peut souvent être un proverbe. Donc, il conclut en essayant de sceller l'accord en mettant une phrase proverbiale pour sceller l'accord et en disant, oui, voyez que même le proverbe le sait. comme il est inutile d'étendre le filet à la vue des oiseaux. Alors, sortez de là. Ne le sois pas, sois plus intelligent qu'un oiseau. Quand vous les voyez arriver avec un filet, ces voyous essaient de vous inciter à la violence. Sors d'ici. Même un oiseau muet s'envole lorsqu'il voit quelqu'un le poursuivre avec un filet. Ainsi reprend-il le proverbe, même un oiseau s'envole quand le filet le poursuit. Voilà donc sous la forme des instructions. Il y a 10 conférences divisées en 3 sous-ensembles. Il y a l'appel à l'apprentissage et plusieurs instructions sont un appel à l'apprentissage, un appel à se souvenir et à obéir, chapitre 3, chapitre 4. L'avertissement contre les relations sexuelles illicites, et c'est assez important dans les proverbes, proverbe 5, chapitre 6, versets 20 à 35 et chapitre 7. Ainsi, les chapitres 5 et c'est ainsi que la fin du chapitre 6 parlent tous de l'avertissement concernant les relations sexuelles illicites et c'est assez explicite et des choses comme ça. Et voici les 10 instructions. Les intermèdes sont des discours prononcés par Madame la Sagesse vantant son enseignement. Ainsi, Madame la Sagesse est ici personnifiée. La Sagesse va parler. C'est une femme et elle va parler et elle va vanter son instruction. Remarquez que la femme enseigne la sagesse. Est-ce bien de laisser la parole aux femmes? Ouais, ici, c'est Madame la Sagesse et elle vante ses instructions dans les chapitres 10 des Proverbes ou dans un verset 20 à 20, 33 qui détourne ses vertus dans les chapitres 9 et 31. Et au fait, laissez-moi faire ça pendant que je suis ici. Et j'y pense. C'est très intéressant pour moi. Le livre des Proverbes commence avec Madame la Sagesse parlant au premier chapitre, où elle sort et appelle tout le monde, s'il vous plaît, entrez. Madame la Sagesse, je m'offre librement, mais vous devez vous détourner et abandonner vos voies simples. Cela commence par Madame la Sagesse, puis le chapitre 31 des Proverbes, je crois, se termine par Madame la Sagesse. Et si vous lisez le chapitre 31 des Proverbes, je pense que c'est une description de Madame la Sagesse, de ce que c'est que d'être marié à Madame la Sagesse, de la façon dont elle vous servira. Et donc, dans un certain sens, je pense que Proverbe 31 ne parle pas d'une vraie femme, mais de Madame la Sagesse, cette personnification de la sagesse, de sorte que les proverbes commencent par Madame la Sagesse et se terminent par Madame la Sagesse. C'est ce que ça fait de sortir avec Madame Sagesse. Et voici ce que c'est que d'être marié à Madame la Sagesse et comment elle vous servira. Mais d'ailleurs, peu de gens sont d'accord avec moi sur ce point. Alors mettez ça, vous savez, je dis de mettre un point d'interrogation à côté de celui-là. C'est peut-être juste une de mes choses bizarres, mais je pense que c'est une sorte de début et de fin, Madame la Sagesse et Madame la Sagesse étant mariée à elle, Proverbe 31, la femme vertueuse de VW. D'accord. Maintenant, les véritables instructions de phrase des Proverbes. Nous venons de faire cela, Proverbe 1 à 9. Maintenant, je veux parler des remontrances. Un avertissement est généralement un impératif. C'est une commande. C'est comme, garde ton cœur car de lui naissent les choses de la vie. Proverbe 4h23, garde ton cœur. Les avertissements se trouvent à la fois dans la littérature de sagesse mésopotamienne et égyptienne. La plus forte concentration d'avertissements se trouve dans les Proverbes 1 à 9 et les Proverbes 22 à 24. Avez-vous eu la connexion? Proverbe 1 à 9, 22 à 24, la même chose que nous avons vu dans les instructions, mais les avertissements sont également lourds dans ces sections. La formule architectonique des remontrances est un appel à l'écoute et une condition, si vous faites cela, et alors impératif, faites ceci ou ne faites pas cela. D'accord. Faites ceci ou ne faites pas cela. Et puis il y a une motivation, une clé, parce que, et puis une instruction récapitulative. Et ainsi, ces remontrances apparaissent alors et elles sont des remontrances. Soit ils avertissent, soit ils interdisent, c'est peut-être la façon de le dire, ils interdisent une activité, une interdiction ou un mandat, faire ceci ou ne pas faire cela. Et ce sont généralement des choses impératives. Par exemple, les Proverbes 3 à 5 que nous connaissons tous disent « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur ». C'est l'impératif. C'est un mandat. Faites ceci, mandatez, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Et puis pourquoi? Quelle est la motivation? Il rendra votre chemin droit. C'est le motif. Alors, vous avez un commandement, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Quel est le motif? Parce que, il rendra ton chemin droit. C'est donc un avertissement. L'avertissement peut être soit positif, un mandat, une confiance dans le Seigneur, soit une interdiction négative. Mon fils, ne traîne pas avec des voyous qui tentent d'arnaquer les gens dans Proverbe 1 interdiction. Les interdictions se présentent sous la même forme, mais sous la forme négative. Proverbe 3, 11, ne méprisez pas la discipline du Seigneur. Il y aurait donc un point négatif. Ne méprisez pas la discipline du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur discipline ceux qu'il aime. Voilà, ne méprisez pas la discipline du Seigneur, négative, juste une sorte de chose impérative parce que vous en expliquez le motif. Il y a donc une série d'avertissements dans Proverbe 23, mars 2014. Il y en a donc une série et comment ils sont tous liés. Ne méprisez pas ces délices. Ne vous fatiguez pas pour acquérir des richesses. Ne mange pas le pain d'un homme avare. Ne parlez pas devant un insensé. Ne déplacez pas l'ancien monument. Ne refusez pas la discipline à un enfant. Donc, c'est ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Ce sont des interdits, des choses interdites. Et c'est mis dans ce format de type avertissement, Proverbe 23, mars 2014, en quelque sorte les reliant ensemble. Maintenant, en voici un autre qui est plutôt amusant. C'est ce qu'on appelle un dicton numérique. Donc, c'est un autre micro-genre dans les proverbes, les grands proverbes. Il s'agit d'un micro, l'une des formes que prend la sagesse. C'est ce qu'on appelle un dicton numérique. Et laissez-moi juste m'amuser avec celui-ci. Je pense qu'ils le sont en grande partie, les dictons numériques se trouvent en grande partie dans Proverbe 30. Proverbe 30, vous en avez un tas. Trois choses sont trop étonnantes pour moi, CF 6h16. Vous voyez le numéro là-bas? Trois choses sont trop étonnantes pour moi. 4, je ne comprends pas. La voix d'un aigle dans le ciel, la voix d'un serpent sur un rocher, la voix d'un navire en haute mer et la voix d'un homme avec une femme. Vous pouvez voir qu'il utilise toutes sortes de choses naturelles. Et puis la punchline arrive au numéro 4. Car trois choses sont étonnantes, quatre je ne comprends pas. Pour trois et pour quatre, ce genre de choses. Et puis la manière d'un homme avec une femme. Le modèle est qu'il y a X et X plus 1. Donc, il y en a trois, puis quatre, et ce genre de choses. Les exemples se trouvent en grande partie dans Proverbe 30, mais aussi au chapitre 6, versets 16 à 19, 26, etc. Amos 1 et 2 est un prophète qui utilise cela pour trois péchés contre Damas et pour quatre, je vais monter et anéantir Damas. Et pour trois péchés et pour quatre, Édom les aura, parce que tu as fait cela. Pour trois péchés et pour quatre, Moab parce que tu as fait cela. Et ainsi, Amos utilise les 3 plus 4 comme structure à utiliser également dans ses choses prophétiques. Donc, ce que je dis, c'est que ce ne sont pas seulement de la sagesse, pas seulement des proverbes. Le micro-genre a été utilisé très efficacement dans Amos 1 et 2 dans les paroles prophétiques. Les paroles numériques sont tirées de la nature, de la société, de l'éthique et même de la théologie et de Job. Voilà donc les dictons numériques. Maintenant, il y a aussi des paroles meilleures que les paroles, et en quelque sorte meilleures que les paroles, nous avons des choses, les justes et les méchants, les paresseux et les diligents, les sages et les insensés. C'est une sorte de configuration binaire. Ce qui est meilleur que les proverbes brouille un peu cela, mieux vaut une personne pauvre qui marche dans son intégrité qu'une personne qui a un discours tordu et qui est un imbécile. Proverbe 19h01. Bryce et Ogden ont rédigé deux articles à ce sujet mieux que de le dire, et ce sont d'excellents articles. La forme moderne vaudrait mieux tard que jamais, mieux vaut tard que jamais. Amon Mop, d'ailleurs, dans la littérature de sagesse égyptienne, a aussi mieux que les proverbes. Mieux vaut du pain avec un cœur heureux que de la richesse avec du chagrin. Cela ressemble à des proverbes, non? Mieux vaut du pain avec un cœur heureux que de la richesse avec du chagrin. Donc, mieux X que Y est souvent étendu, alors dans ce meilleur et à plus X que B plus I. Et donc, il faut souvent cette quadruple chose avec deux chacune. Mieux vaut A plus X que B plus I. Ainsi, par exemple, dans Proverbe 16, 8, vous obtenez ceci, mieux vaut peu avec justice qu'une grande richesse sans justice. Il vaut donc mieux A plus X que B avec I, mieux vaut donc peu avec justice qu'une grande richesse sans justice. Et il y a Proverbe 12, 9, 17, 1, 19, 1 et 21, 9. Il y a souvent un phénomène couplé. Nous avons parcouru cela dans la paire de proverbes et ces dictons meilleurs que. Habituellement, ils sont séparés, mais dans Proverbes 15, 16 et 17, il y a deux proverbes meilleurs que les proverbes dos à dos. Il y a donc une variante, Vous vous souvenez de la façon dont nous avons parlé de torsion des proverbes et de variation? Il n'y a pas de bon proverbe. Il y a mieux que les proverbes. Il n'y a pas de bon proverbe. Et ceci se trouve dans les chapitres 17.26 et 18.5. Le genre de proverbe ce n'est pas bon. C'est donc une forme de déformation du meilleur que les dictons. Il existe des dictons comparatifs. Ceci est une autre branche des dictons comparatifs. Ceux-ci sont utilisés comme ou comme comparaison analogique d'un domaine avec l'autre. Dans Sumer, les proverbes de Sumer, nous avons « comme un chien qui n'avait pas d'endroit où dormir ». C'est comme un chien qui n'a pas d'endroit où dormir. Comme une ville dans les proverbes mêmes, proverbe 25, 28, comme une ville aux murs effondrés, telle est une personne qui manque de maîtrise de soi. Comme la neige en été ou la pluie pendant la récolte, ainsi l'honneur ne convient pas à un imbécile. Comme un moineau qui vole, comme une hirondelle qui vole, une malédiction sans cause ne s'abat pas, proverbe 26, 1 et 2, etc. Il y a une forte concentration de groupes comparatifs similaires dans proverbe 25 et 26. Donc, dans les chapitres 25 et 26 des proverbes, vous avez beaucoup de ces proverbes similaires sur ces groupes, proverbe 25 verset 28 à 26.2, ce qui montre en quelque sorte que 25, 28 se rapporte à 26.2 vous montre que la division des chapitres entre les chapitres 25 et 26 est probablement au mauvais endroit. Et nous avons dit à d'autres moments où nous avons parlé, les divisions de chapitres ont été ajoutées dans les années 1200 ou 1300 après J.C. Ainsi, les divisions des chapitres ne sont pas inspirées de Dieu. Ceux-ci ont été ajoutés par un évêque. Le docteur Macrae disait toujours que l'évêque montait à cheval et que parfois il avançait et parfois il reculait. Donc, vous devez toujours vous demander, lorsque vous arrivez à une division de chapitres, ces chapitres doivent-ils être rassemblés? Y a-t-il un Janus là où vous regardez en avant, en arrière? Quels sont les liens là-bas? Ainsi, nous voyons dans 25, 28 à 26.2, la division des chapitres est probablement mise au mauvais endroit, mais nous laisserons cela pour des discussions ultérieures. L'abomination disant, une abomination disant, ici vous obtenez la voix des méchants est une abomination où le Seigneur déteste. C'est donc ainsi que je pense que le SV le traduit. La voix des méchants est une abomination pour le Seigneur, proverbe 15, 9, où le Seigneur déteste cela. Certains ont proposé à tort que les proverbes qui mentionnaient Yahweh ou le Seigneur étaient des ajouts ultérieurs insérés dans un recueil de proverbes plus anciens et plus profanes. En d'autres termes, M.C. Kane, lorsqu'il a écrit son commentaire, n'est pas vraiment accepté maintenant, il a été démystifié, mais en grande partie il avait un sens laïque, les phrases étaient laïques, et puis elles ont évolué vers ce grand truc théologique. C'est donc là que les paroles de Yahweh ou les paroles d'abomination, d'abomination au Seigneur, ont été ajoutées plus tard alors qu'elles évoluaient du profane au sacré. Cette distinction a maintenant été réfutée à la fois par les proverbes sumériens que je viens de regarder ce matin et aussi par les proverbes égyptiens, etc., etc., où les dieux sont mentionnés dans tous les premiers ensembles de proverbes. Au contraire, certaines des premières collections sumériennes ont également cette forme, qui fait référence aux divinités. Les décès ne sont pas effacés et sont une abomination pour Utu. Alsté mentionne comme un très ancien proverbe sumérien que les décès ne sont pas effacés. Ils sont une abomination pour Utu, le dieu de Sumer. Là aussi, une fausse balance est une abomination à l'Éternel, mais un poids précis lui plaît, proverbe 11, 1. Le parallélisme antithétique, l'abomination, est une abomination pour le Seigneur, et c'est son plaisir. Habituellement, dans un parallélisme antithétique, cette seule chose est une abomination pour le Seigneur, mais c'est son plaisir. Ainsi, il est dit qu'une fausse balance est une abomination pour le Seigneur, mais qu'une voie exacte fait son plaisir. Ainsi, l'abomination et le plaisir sont mis en parallèle dans un parallélisme antithétique. En voici une que la plupart d'entre vous connaissent, et c'est une béatitude. Une béatitude est un proverbe qui commence par le mot béni, Asher ou Baruch. Il y a quelques mots pour béni en hébreu, et je ne veux pas entrer ici dans les différences de traduction. Mais la béatitude, ou un macarisme comme on l'appelle, commence quand je dis béatitude, presque tout le monde pense là au sermon sur la montagne dans les béatitudes. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bénis soient les simples d'esprit. Et ainsi, vous êtes bénis par ceux qui ont le cœur pur et bénis par ceux qui ont faim et soif de justice dans les proverbes. C'est dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne. D'ailleurs, on le trouve également dans les psaumes. Comment commence le psaume? Le psaume 1 est considéré comme un psaume de sagesse. Il y a de grands débats sur toutes ces choses concernant ce qu'est la sagesse des psaumes. Mais, bienheureux est celui qui ne suit pas le conseil des méchants, ne s'oppose pas aux pécheurs et ne s'assied pas à la place des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur. Bienheureux soit la personne. Cela commence donc par le psaume 1 qui commence par ce « Bienheureux soit la personne » ou « Bienheureux soit celui qui est ». Cela apparaît également dans les instructions égyptiennes. Et Proverbe 8, 32, verset 34, chapitre 29, 18, Proverbe 18, 14 déclare « Bienheureux celui qui craint toujours l'Éternel ». Le voilà. Proverbe 28, 14, « Bienheureux celui qui craint le Seigneur, craint toujours le Seigneur ». Et donc cela s'appelle une béatitude ou un macarisme, c'est un autre nom pour cela. Or, les paroles de Yahweh, ce sont des paroles qui mentionnent le nom du Seigneur. Nous traduisons l'or avec un L majuscule, un R majuscule, un L majuscule, un O majuscule, un R majuscule, un D majuscule, et ils sont tous en majuscule. C'est un Adonai remplaçant le mot Yahweh, qui est le nom le plus sacré de Dieu. Yahweh note 375 paroles qui intéressent le nom de Salomon. Si vous prenez le nom de Salomon, il y en a 300, cela veut dire 375. Il n'avait pas de système numérique séparé ni d'alphabet. Donc, leur alphabet, ils l'ont utilisé pour les chiffres. Et si vous prenez le nom de Salomon, cela fait 375. Il y a 375 proverbes. Parmi ces 375, 55 ou 15% sont des paroles de Yahweh. 15% sont des paroles de Yahweh. Les chapitres 15 et 16 des Proverbes ont une forte concentration de ces paroles de Yahvé dans les chapitres 15 et 16 des Proverbes. La section 15, 33 à 16.9 est un recueil concentré de paroles de Yahvé, qui est suivi ensuite dans 16, 10 à 15 par une série de paroles du roi. Dicton, dicton Malak, dicton King. Donc, vous avez une série de paroles de Yahweh suivies d'une série de paroles du roi. Et cela reflète encore une fois le genre de courtisan, de sage, l'origine de la cour royale de certains de ces proverbes du genre roi Salomon. Inclusio commence et termine le livre avec la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur est le début de la connaissance. Chapitre 1, 7 et Proverbes chapitre 31, 30, la crainte du Seigneur. C'est une femme qui craint le Seigneur. Ainsi, cela commence et se termine par la crainte du Seigneur. Et donc, il y a beaucoup de crainte du Seigneur, ce serait l'une de ces paroles de Yahweh. Paroles de Yahweh au niveau collectif, Haïm le note dans Proverbes 21, 1 à 32. À paroles de Yahweh dans les versets 1 à 3. B est la diligence au verset 5. C est la femme harcelante au verset 9. C'est prime et la femme harcelante dans verset 19. Puis la paresse au verset 25, par opposition à la diligence, qui remonte dans le Bélao. Et puis cela se termine avec les paroles de Yahweh au verset 30 et 31. Haïm voit donc le chapitre 21 des Proverbes comme une sorte de mini-recueil et c'est une idée intéressante. Et je pense que Haïm a raison, comme toujours ou habituellement avec lui. Il fait ses devoirs. Maintenant, des proverbes contraires, des proverbes qui sont en quelque sorte contraires les uns aux autres à l'époque sumérienne. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles sont paradoxales. Je pense que certains d'entre eux sont faits pour le plaisir de l'humour. Ainsi, à l'époque sumérienne, il est dit, sur 3600 bœufs, il n'y a pas de fumier. Vraiment? Bill Gates l'a-t-il poursuivi pour éliminer tout ce méthane? Non, c'est à l'époque sumérienne. Il est écrit, sur 3600 bœufs, il n'y a pas de fumier. Les proverbes modernes sont ainsi. L'absence rend le cœur plus affectueux ou est-elle hors de vue, hors de l'esprit? C'est peut-être un proverbe tordu. L'absence fait vagabonder le cœur. Duel de proverbes. J'en ai eu un avec ma fille. Je l'ai déjà dit. Ma fille, il y a ceux du soir et ceux du matin, non? Et j'ai essayé quand je me suis marié pour la première fois, j'ai essayé de faire de ma femme une personne de nuit. J'ai essayé de la transformer en une personne du matin parce que la première berne attrape le ver après tout. Et j'ai réalisé qu'après de nombreuses années, en fait, cela m'avait pris de très nombreuses années. J'apprends un peu lentement sur ce genre de choses. Et ainsi, j'ai finalement réalisé qu'elle était une personne de nuit. Elle fait de son mieux entre minuit et 2h du matin. Je fais de mon mieux entre 5h30 et 9h du matin environ. D'accord. Et donc, j'essayais de faire sortir ma fille du lit parce que nous devions courir jusqu'à l'école et des trucs comme ça et l'emmener. Alors, je lui ai cité ça. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et avec quoi est-elle revenue ? sans un regard flagrant, mes filles, mes deux filles et mes enfants sont en fait plus intelligents que moi en tant que parent, mais elle vient de revenir sans même cligner des yeux. J'ai dit, celui qui se lève tôt attrape le verre. Elle dit, ouais, papa, mais la deuxième souris obtient le fromage. Pensez Y, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis elle a contredit cela en disant oui, mais la deuxième souris obtient le fromage. Je ne sais pas où elle a eu ça. Je ne lui ai pas appris ça. Mais de toute façon, elle est juste arrivée et a fait bam comme ça. Et elle m'a eu. Nous remarquons cela dans Proverbes chapitre 26, 4 et 5. Ne répondez pas à l'insensé selon sa folie, de peur que vous ne soyez vous-même comme lui. Verset suivant, répondez à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. Du coup, ça casse les bandes. Ces proverbes contradictoires ou paradoxaux brisent la tentative d'universalisation et de dogmatisation des proverbes. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas les isoler et les universaliser ainsi. C'est plus polysituationnel et ils sont utilisés dans différents contextes. Mais revenez en arrière et regardez cette vidéo que j'ai faite sur les chapitres 26, 4 et 5 des proverbes pour répondre à un imbécile ou ne pas répondre à un imbécile. Mais certaines de ces choses sont censées être ludiques et il y a ce genre de plaisanterie, un concours de sagesse entre les sages, si vous voulez. Alors maintenant, les unités de composition, la Septante ou la Septante ou la LXX réorganisent les collections. Ainsi, par exemple, dans les proverbes chapitre 30, les versets 1 à 14 se trouvent en fait après proverbes 24, 22. Ainsi, proverbe 30, qui se trouve ici dans la Septante grecque, une traduction grecque, je ne veux pas entrer dans les débats sur cette chose, mais comme je l'ai dit, 200 avant J.C. Ainsi, vers 200 avant J.C., ils prirent le texte hébreu et le traduisirent en grec à Alexandrie. Et d'accord, il y a tout un tas d'histoires que nous connaissons. Quoi qu'il en soit, ils ont donc pris le chapitre 30 et l'ont ramené. Donc, c'est après le chapitre 24, 22. Et ils ont pris le chapitre 30 verset 15 au chapitre 31, 9 et l'ont placé après le chapitre 24 heure 34. Et donc, ce qui se passe, c'est que le chapitre 30 remonte en arrière, puis le chapitre 31 en arrière, et les deux ne sont pas à leur place par rapport à la façon dont nous le ferions dans notre texte hébreu. Ainsi, certaines personnes pensent que le canon n'a pas réellement été fixé à ce point de la Septante et que les choses ont changé. Proverbe 25, 1 mentionne le travail éditorial des hommes d'Ézéchia copiant les proverbes de Salomon. Ainsi, le grand recueil des proverbes de Salomon, les hommes d'Ézéchia sont sortis, l'ont pris et l'ont édité. Donc, vous avez maintenant à la fois l'auteur d'un proverbe et que signifie un proverbe par rapport à l'auteur, mais vous avez aussi les éditeurs et que voulaient dire les éditeurs lorsqu'ils l'ont mis dans la collection et comment ils l'ont connecté à d'autres proverbes. Donc, vous avez en fait deux niveaux de sens, puis le sens d'auteur, le sens éditorial, et ensuite vous avez le sens lorsque vous l'utilisez dans divers contextes et son utilisation peut être très diverse comme nous l'avons déjà dit. Maintenant, une autre unité ou type de mini-genre pourrait être les paires de proverbes. J'ai fait une conférence entière sur les paires de proverbes et vous pouvez voir au chapitre 15, 1 à 2 où ce sujet est une phrase nominale, un verbe, puis un objet et un nom, le tout à la suite. Les quatre lignes ont la même structure syntaxique, SVO, 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 SVO. Proverbe 13, 21 à 22, le désastre des pécheurs les poursuit, mais les justes sont récompensés par les bonnes choses. Un homme bon, Tov, laisse un héritage, mais la richesse du pécheur est réservée aux justes. Ainsi, vous voyez alors au chapitre 13, 21 à 22, cela commence par les pécheurs et cela se termine par le pécheur. Ce mot atim commence et termine le proverbe et au milieu, les deux mots qui sont dos à dos sont tov, bonne chose dans le premier, et bon homme, personne dans le deuxième proverbe. Donc tov au milieu et ensuite les pécheurs à l'extérieur. Donc, c'est ABBA, une structure chiastique là, mais il y a aussi cette enveloppe où ce qu'ils appellent une inclusio où le début et la fin sont exactement le même mot. Quelles sont les chances que cela se produise simplement en les réunissant? Non merci. Proverbe 26, 4 et 5, répondez à l'insensé selon sa folie. Dans le verset suivant, ne répondez pas à l'insensé selon sa folie. C'est une paire claire, Proverbe 26, 4 et 5. Je viens de les inverser en passant. Le lien, lien thématique Proverbe 12, 18 et 19 sont tous deux liés par le thème du discours. Et pourtant, bien qu'il mentionne la parole, et qu'il mentionne de nombreux mots sur la parole, aucun d'entre eux n'est un slogan commun, mais le sujet est le même. Ainsi, métaphore et comparaison, Proverbes 14, 26 et 27, dans la crainte du Seigneur, on a une grande confiance et ses enfants auront un refuge. Verset suivant, la crainte du Seigneur est une source de vie que l'on peut détourner des moqueries de la mort. Et donc, c'est la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur, deux craintes des seigneurs d'affilée. C'est vraiment rare. Et pourtant, c'est trouvé. Ce sont donc des unités à parier. Il y a donc des paires de proverbes. Ainsi, lorsque vous lisez, vous regardez ces paires et voyez ensuite comment elles interagissent les unes avec les autres et cela aide herméneutiquement. Cela vous donne une autre perspective. Quel est le contexte du proverbe du recueil? Eh bien, apparemment, les paires ont également interagi les unes avec les autres, les deux proverbes. Ainsi, dans les chapitres 10 à 29 des proverbes, il y a 595 versets sur ces 595, 124 étaient à parier. Cela représente environ 21% des chapitres 10 à 29 de ces phrases, environ 21% sont ce phénomène de paires où deux proverbes interagissent l'un avec l'autre. Et donc, je dis juste des paires de proverbes. Acrostiche du proverbe. Qu'est-ce qu'un acrostiche? Bon, je vais vous montrer un acrostiche, mais proverbe 31, la femme vertueuse ou VW, la femme vertueuse, elle a ses 22 lignes. Chacun commence par la lettre suivante de l'alphabet. Donc, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Cela suit l'alphabet hébreu, et chaque ligne commence par le verset suivant. Maintenant, vous ne pouvez pas voir cela en anglais. Vous ne pouvez pas voir cela en anglais. Perdez-vous des choses dans la traduction? Oui. C'est pourquoi vous devriez apprendre l'hébreu. On perd des choses, surtout en poésie, surtout en acrostiche. Cependant, il existe un moyen de le faire. Et je vais vous montrer le texte hébreu du psaume 119. Le psaume 119 est ce grand psaume klaxonnant sur la parole de Dieu. Et il y a 8 versets sur le A, 8 versets sur le B, 8 versets sur le C. Et donc, vous remarquerez que si vous examinez plusieurs de vos traductions modernes, vous verrez que ce sont les versets Aleph. Ce sont les versets de Beth. Ce sont les versets Gimel. Et cela passera par tout l'alphabet. C'est pourquoi le psaume 119 est si long, car il contient 8 versets à travers toutes les lettres de l'alphabet. Donc ici, vous pouvez simplement voir ceci et vous pouvez voir qu'Asher recommence dans Asher. Mais vous voyez que j'ai mis en jaune ici, l'Aleph, Aleph, Aleph, Aleph. Et vous descendez au verset 8, vous voyez, ils commencent tous par Aleph. Quelles sont les chances que cela se produise? Non, c'est de la poésie. Et il le fait exprès. Ensuite, vous voyez, au verset 9, cela commence par les sections Beth, B, puis vous avez B qui descendent sur 8 versets. Et puis vous avez le Gimel G qui descend. Et c'est ainsi que cet acrostiche est développé ici. Mais c'est ce qui est fait dans Proverbe 31 pour la femme vertueuse. Et donc, comme nous l'avons dit, la femme vertueuse que je suggère est également Madame Sagesse des chapitres 1 et suivants au début. Donc, dans un sens, l'acrostiche ou le parcours de l'alphabet est le A à Z sur la femme vertueuse. Le A à Z, c'est l'exhaustivité. Cela signifie la perfection. Cela signifie l'exhaustivité. Je vous ai donné de A à Z, je vous ai tout donné. Et il y a un moyen mnémotechnique, il y a aussi un truc pédagogique, parce qu'on peut s'en souvenir. C'est la ligne A, la ligne B, la ligne C. Donc, si vous mémorisez ceci, vous pouvez vous en souvenir par la première lettre. Soit dit en passant, Lamentation est également structurée dans ce sens. Lamentation est un livre sur la chute de Jérusalem. C'est vraiment une sorte de lamentation et une mauvaise chose. Et fondamentalement, je pense que ce que l'alphabet fait dans l'acrostiche des lamentations essaie de dire, pendant que le chaos détruit Jérusalem, Jérusalem est en train d'être détruite. Tout est bouleversé. Le temple a disparu. Où est Dieu? Au milieu de sa tempe en train d'être renversée. Tout est chaos. Pourtant, cet acrostiche ressort. Il y a encore de l'ordre. Il y a encore de l'ordre. Et donc, je pense qu'il y a de l'ordre au milieu du chaos écrasant du livre des Lamentations. Mais de toute façon, la femme vertueuse, Proverbe 31, je pense que c'est le verset 10 et suivant, c'est un acrostiche pour que la femme vertueuse utilise la forme acrostiche. Chaîne ou cluster est notre prochaine forme, chaîne ou cluster. J'appelle ça des cordes. Knutheim appelle cela des clusters. Il a probablement raison. Il a là une meilleure métaphore. De nombreuses paroles proverbiales des proverbes 10 à 29 ne sont pas réunies. Certaines personnes suggèrent qu'ils sont simplement assemblés au hasard, bon gré mal gré. Maintenant, ils semblent arriver en grappe ou en groupe. Knutheim isole donc ces clusters et fait un très bon travail dans sa thèse qui a été publiée. Chapitre 10, 6 à 11, l'inclusion de la délimitation, mais la violence accable la bouche des méchants, se trouve au chapitre 10, 6. Et puis le chapitre 10, 11b se termine par « Mais la violence accable la bouche des méchants ». Il s'agit donc d'une véritable citation entre les deux montrant le début et la fin de cette chaîne ou de ce cluster. Et ainsi, Waltke voit également cela dans les chapitres 20, 8 à 11. La justice du roi au verset 8 et A, B et la dépravation humaine universelle au verset 9, la justice du Seigneur est à nouveau à au verset 10 et ensuite B et la dépravation humaine du verset 9. La jeunesse au verset 11. Donc, les versets 8 à 11 avec cette structure A, B que Waltke développe. Maintenant, prenez du recul, les unités de collection. Or, ce sont les plus importants qui reçoivent en fait des titres dans le livre des Proverbes. Chapitre 1, 1 à 9, 17, les instructions mettant en vedette Madame la Sagesse et Madame la Folie. Donc les chapitres 1 à 9, Madame la Sagesse, Madame la Suite, se battent, vont et viennent. Ce sont les instructions. Souvenez-vous des 10 instructions et des 5 intermèdes puis de ces longs cours qu'un père donne à son fils, de l'enseignement de sa mère. Ce sont les chapitres 1 à 9. C'est la section d'instruction. Ensuite, les chapitres 10, 1 à 22, 16 sont les phrases de Salomon. Ce sont les chapitres 10 à 22 des proverbes de Salomon. Ensuite, 22 à 24 sont les paroles des sages, et vous pouvez y entendre le genre de choses des scribes. Ensuite, les chapitres 24, 23 à 34 contiennent d'autres paroles de sages. Et les paroles des sages, c'est là que beaucoup de gens voient des parallèles avec Amenemope en Égypte. Il y a les instructions d'Amenemope et il y a de forts parallèles. Les 30 paroles d'Amenemope trouvent un écho dans ces proverbes des chapitres 22 à 24. Maintenant, les chapitres 25 à 29 sont davantage de proverbes de Salomon recueillis par les hommes d'Ézéchia. Vous voyez donc que le travail éditorial y est explicitement mentionné. Les chapitres 30, 1 à 33 des proverbes sont les paroles d'Agur. Nous ne savons pas qui est ce type, mais ensuite vous remarquez le truc étranger. Rappelez-vous que je vous ai parlé de la dimension internationale et vous pouvez voir la saveur internationale dans certains proverbes ici. Proverbe 31, 1 à 31 sont les paroles de Lémuel, que sa mère lui a enseignées. Puis le chapitre 31, les paroles du roi Lemuel que sa mère lui a enseignées. Donc, c'est sous-collection, et il y a d'autres sous-collections. Revan Lewen, par exemple, a isolé les proverbes 25 à 27 comme sous-collection. Bon mouvement. Malchaud démontre à nouveau que les proverbes 28 et 29, sous-collection, qu'il a qualifié de manuel pour les futurs monarques. Haïm considère également, comme nous l'avons dit précédemment, proverbe 21 comme un sous-recueil. Ainsi, plusieurs de ces personnes ont proposé des sous-collections, intéressantes à réfléchir. Maintenant, je veux en quelque sorte conclure les choses ici. Cela fait assez longtemps, mais les proverbes, c'est quoi les proverbes? Nous avons examiné cela. Les proverbes nient l'impuissance en encourageant le développement humain, en faisant des choix responsables qui comptent et ont de réelles conséquences, allant de l'égocentrisme de l'œil au repas commun avec Madame la Sagesse pendant qu'elle lui propose son enseignement. Le deuxième point, la puissance internationale continue des proverbes. Ils s'internationalisent et traversent le temps depuis Sumer jusqu'au temps moderne et récent. Le livre des proverbes est puissant. Cela devient international. C'est en quelque sorte intemporel, omnitemporel, et on le retrouve dans les livres, les chansons, les poèmes et toutes sortes de choses. Un exercice que je faisais faire à mes élèves consiste à prendre ce qu'ils disent d'un proverbe et à le transformer en une histoire condensée. C'est donc une histoire condensée jusqu'à un proverbe. Un fils sage est une joie pour son père. Donc, vous prenez ce proverbe et vous le réintégrez dans une histoire complète. Alors, je leur ai demandé de prendre une histoire et d'écrire une histoire sur le proverbe. Ensuite, à partir du dicton « un fils sage est une joie pour un père », ils disent que cela a été transmis de génération en génération, des centaines d'années à travers de multiples cultures, disent-ils et en font un jeudi dans une histoire à laquelle vous l'appliquez. Vie moderne. Ensuite, nous avons fait certaines choses, quelques exemples sur le web sur YouTube et sur biblicallearning.org, où le proverbe est ensuite tiré d'un proverbe et réinjecté dans une histoire. Et c'était amusant de faire ça. Je pense que c'est un bon exercice pour les enfants de prendre un proverbe, puis d'écrire une histoire à partir de ce proverbe, de prendre le noyau du proverbe et de le réintégrer dans une histoire complète. Et cela manifeste l'intemporalité et la puissance des proverbes. Alors que beaucoup considèrent les proverbes comme triviaux et utilisés simplement à des fins de parodie et de satire, comme s'ils remontaient d'une époque ancienne de naïveté et d'innocence jusqu'à la complexité et le cynisme postmoderne, notre culture a désespérément besoin de formuler la sagesse. On peut donc banaliser ces proverbes, mais dans notre culture, le bon sens est rare. Et ces proverbes peuvent vraiment nous y aider. Les proverbes élèvent la vision à la crainte du Seigneur. En même temps, il appelle à une action responsable et à planifier sa propre voie en réalisant humblement qu'il existe une main providentielle qui guide, prend soin et détermine finalement les résultats finaux. Proverbe 16h09. Ainsi, le proverbe appelle à un engagement total dans les choix carpe diem du moment, mais placé dans le contexte d'un il et d'un tu, établissant le il et le tu, eux et toi, Dieu, et établissant le contexte pour le la signification et le sens ainsi que les choix faits par chaque jeu individuel. Ainsi, le jeu est placé dans un contexte de il et de toi. Et donc, je pense qu'il y a de l'ordre au milieu du chaos écrasant du livre des Lamentations. Mais de toute façon, la femme vertueuse, Proverbe 31, je pense que c'est le verset 10 et suivant, c'est un acrostiche pour que la femme vertueuse utilise la forme acrostiche. Et ce qui se passe dans notre culture, c'est que nous voulons le grand jeu dans notre façon narcissique de voir les choses et supprimer le il et supprimer le tu, Dieu. Et le sens des choix est fait par chaque individu. L'esprit de l'un et la sagesse de plusieurs. Un proverbe, l'esprit de quelqu'un et la sagesse de plusieurs. C'est un proverbe. La crainte du Seigneur est le commencement ou le premier principe de la sagesse. Et c'est ce que nous recherchons. Merci. Il s'agit du docteur Ted Hildebrand et de son enseignement sur le proverbe en tant que genre littéraire.